Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, comment ça va?
Ça va. Petite maladie.
Ça ramène des virus de l'étranger.
Alors, même pas, tu vois, je suis revenu en pleine forme parce que un peu jetlagué, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais un petit peu mal à la gorge, donc ne m'en voulez pas si je prends une pastille pendant l'enregistrement.
Nous t'en voudrons pas.
Émission un peu spéciale. Chronique un peu spéciale, tu vas commencer avec un hommage à Akira Toriyama qui nous a quitté il y a quelques jours, quelques semaines maintenant.
Ouais.
Donc ça va être un petit peu triste évidemment, mais ça va, tu vas faire honneur et tu vas nous faire un truc un peu stylé. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est moi qui vais vous parler de deux jeux de plateforme un petit peu particuliers. C'est Promenade et Penis Big Breakaway, que je raccourcirai sûrement en Penis. Et c'est rigolo. Et oui, forcément. Mais donc voilà, c'est deux jeux de plateforme qui sont assez différents mais finalement assez similaires. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur les 15 jours passés sans Red Alert. Donc on vous a laissé sans votre émission préférée, mais on vous a quand même livré des émissions qui sont sympas.
Alors voilà,
c'est pas Red Alert, mais c'était pas mal. Donc quand même la FAQ donc des 9 ans, donc 5e FAQ, mais pour célébrer les 9 ans de Third. Ça c'était il y a 15 jours. La semaine dernière, un Third Strike avec quasiment toute l'équipe. Il ne manquait que Ludo, mais Ludo sera là pour le prochain Third Strike. Donc c'est le format débat où chacun a une chronique et vous présente son petit truc où il y a toute l'équipe. Donc ça c'était la semaine dernière, et entre temps il y a même eu un petit Third Song, donc une mixtape sur les sons de cet hiver. Donc il y avait quand même de quoi faire dans
de quoi écouter. On ne vous laisse jamais démunis,
jamais. On pense tout le temps à vous, et là on va penser à vous, mais on va penser aussi à Akira Toriyama qui nous a quitté. Et Nico, c'est toi qui commence.
On va penser à vous, on va penser à nous, on va penser à toi, à moi, parce qu'on a tous été marqués.
Ça me fait penser à une chanson.
Effectivement. Alors, écoute, déjà, pour commencer, je te dirais que j'ai aucune idée de la première fois où j'ai découvert Dragon Ball. Je sais pas si toi, c'est un souvenir particulier. C'est un peu comme, tu vois, le jeu vidéo, comme, je sais pas, la télévision, tu vois, on est né avec, on l'a toujours connu. Et j'ai pas ce souvenir de dire, ah, c'est aujourd'hui que je découvre Dragon Ball. Je trouve ça chelou. Je sais pas si toi, c'est ton cas.
Alors, je me souviens pas de la découverte de Dragon Ball, mais je me souviens le premier manga, le lieu, genre c'est à Carrefour, et c'était les anciennes éditions Glénat cartonnées, tu sais, qui étaient colorées pastel.
Ouais.
Et c'était pas le tome 1. Et voilà, c'est comme ça.
Bah écoute, l'idée, alors il y a eu beaucoup d'hommages, évidemment, à Akira Toriyama, normal, donc l'idée c'est pas de refaire toute sa carrière et tout, mais c'est plus justement voir à quel point ça a pu nous marquer dans notre vie à nous, donc en racontant un peu notre vie, voir à quel point on a été marqué par Toriyama d'une manière ou d'une autre, et je pense que ça fera forcément écho à tout le monde. Et déjà, on commence 1984, l'année de naissance, la mienne et la tienne, et là je me dis à quel point les événements qui datent de notre naissance peuvent nous marquer, parce que 1984, c'est l'arrivée de Michael Jordan à NBA. Donc voilà, déjà, en filigrane, on avait la passion du basket qui allait venir s'installer. Et 1984, c'est aussi le début de la publication de Dragon Ball, donc le manga. Donc voilà, deux événements qui ont marqué notre année de naissance à nous. C'est pourquoi c'est la meilleure année, d'ailleurs, de naissance.
Après, je crois qu'on le dit officiellement, c'est la génération miracle.
C'était établi par l'huissier, c'est nous, quoi. Donc on va avancer un petit peu, parce que bon là, quand on est petit, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui nous entoure, on commence pas forcément à trop réfléchir sur les passions qu'on a, ça vient peut-être un petit peu plus tard.
Oui.
1992, on reste le parallèle du basket, la Dream Team fait exploser le basket américain au JO de Barcelone. Donc la Dream Team, c'est l'équipe américaine de basket qui a assemblé les meilleurs joueurs du moment, et c'est l'équipe la plus incroyable, je pense, qui a marqué l'histoire et qui a du coup répandu aussi l'idée du basket, qui a montré au monde le basket NBA ce que c'était. Et là aussi, sans forcément avoir de souvenirs précis, je pense que ça a dû jouer forcément nous dans notre passion et dans notre envie de faire du basket, parce qu'on a pris ça en pleine poire, surtout que Barcelone, les JO, c'était pas si loin que ça l'un dans l'autre. Donc c'était quelque chose qu'on a vécu, je pense, peut-être même inconsciemment, mais qui a eu un fort impact sur nous, quoi.
Tu l'as pas précisé, mais 84, c'est l'année de naissance de LeBron James, donc finalement on avait un parallèle et on s'est dit peut-être nous, tu vois.
Ouais, mais je voulais pas rendre les gens trop envieux vis-à-vis de nous, tu vois. Donc,
non, mais quand tu as dit ça nous a donné envie de jouer au basket, peut-être qu'on s'est dit LeBron, nous,
on avait deux choix de carrière.
On sait pas. Mais Toriyama, peut-être que LeBron connaissait pas.
Ouais.
Alors que nous, on a pris une autre tangente.
Parce que 92 aussi, il faut dire que le dessin animé Dragon Ball est diffusé à la télé. Et donc, on n'en manque pas une miette, d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est le mercredi matin avant d'aller en cours. Est-ce que t'étais team, tu te levais tôt, ou est-ce que tu l'enregistrais, toi, pour le regarder après?
Franchement, je m'en souviens pas. T'en souviens, toi?
Je crois que j'ai essayé de l'enregistrer parce que j'ai jamais été trop du matin. Je pense que c'était déjà pas le cas quand j'étais petit.
Non, je crois que je le matais en direct.
Et à cette époque-là, bah, c'est à peu près le moment où j'ai découvert le jeu NES Dragon Ball. Je sais pas si tu t'en souviens.
Oui, oui.
Alors, il est sorti en 1990, mais moi, je l'ai pas essayé tout de suite. Hein, donc, on devait être plus dans les eaux de 1992. Mm-hmm. Il s'appelle Dragon Ball, le secret du dragon. Et c'était un jeu qui n'était pas si bon que ça, mais on s'en foutait, en fait. C'était tout bêtement le premier jeu Dragon Ball à arriver en France. Alors, moi, je me rappelle qu'il avait sa fin. Déjà, il était dur. Il était fidèle au début, puis au fur et à mesure, il s'éloignait un petit peu de la fidélité au manga. Et on avait une fin un petit peu anticlimatique où tu réussissais à invoquer Shenron.
Okay.
Et il disait, ouais, tu veux quoi? Tu veux un sandwich? Il fallait faire le souhait, en fait. Ah ouais. Il proposait un sandwich ou quoi? Alors, c'était très mal traduit. Mais en fait, tu fais tout ça pour ça, quoi. Pour un putain de sandwich, quoi. Je sais pas, est-ce que tu avais joué à ce jeu à l'époque? Est-ce que tu t'en rappelles?
Non, je m'en rappelle du jeu, mais j'avais pas joué. J'étais pas Team Nintendo, moi, à cette époque-là.
C'est vrai. Donc c'était un jeu un peu vu de dessus, un peu à la Zelda presque, NES, alors sans le volet énigme hein, évidemment. Et alors ça, info, si jamais ça vous donne envie de vous y essayer, j'avais un tips où on branchait la deuxième manette sur sa NES, et en appuyant sur le bouton B, on zappait d'un stage à l'autre.
Okay.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à le finir, parce que je pense que
t'as trouvé ça tout
évident. J'avais dû lire ça dans un magazine, ou un pote avait dû me donner l'info à l'époque, mais voilà, c'est un petit tips, 30 ans après, ça peut aider 30 ans, que dis-je.
Pas mal.
Beaucoup plus, quoi. 1994, alors là on est deux ans plus tard, et c'est la sortie de la légende Saiyan sur Super Nintendo Dragon Ball Z2, donc le fameux jeu de baston qu'on a tous poncé. Alors moi, je l'ai acheté à Carrefour, hein, je m'en rappelle très très bien, et il était, tu sais, dans les boîtes en plastoc fermé, ouais, là, qu'il faut faire dézipper à la caisse, et en fait, il était offert avec le manga en bundle, le tome 1 du manga. Tu parlais de cette édition pastel et tout, et donc c'était le tome 1 du manga Glénat qui était glissé dedans. Alors, je savais que Dragon Ball, c'était pas que du dessin animé, que c'était aussi une bande dessinée, parce que je sais pas si tu te souviens, mais chez les marchands de journaux, ils vendaient des demi-tomes, en fait.
Ouais.
C'était, voilà, ils coupaient un manga, en fait, en deux. Et t'avais, je sais pas, 4-5 chapitres qui te vendaient ça chez ton marchand de journaux, là où on traînait souvent quand on était petit, hein, pour acheter des magazines ou quoi que ce soit. Et du coup, t'avais ces demi-tomes-là, alors qui étaient qualité moindre, hein, parce que c'était du souple, c'était pas très très jojo niveau impression. Mais on avait déjà connaissance, du coup, que Dragon Ball, c'était une bande dessinée grâce à ça. Mais là, voilà, j'avais le tome 1 entre mes mains du manga. Et le tome 1, c'est rigolo, c'est que ce qui se passe dans le tome n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le jeu vidéo. Hein, parce que Dragon Ball Z2, la légende Saiyan, ça se base plutôt sur l'arc de Cell, en fait. Donc le Cell Game, avec les persos qui sont déjà Super Saiyan et tout. Alors que le tome 1, c'est Sangoku qui est petit, qui découvre, machin. Donc l'impression de... Enfin, je pense que c'est un coup de génie, évidemment, de Glénat, du marketing. Hein, parce que tu se faisais rentrer un peu dans l'univers Dragon Ball par deux prismes différents.
Ouais.
Et surtout, comme toute collection, ce qui est important, c'est quand t'as le tome 1, en fait, c'est là où ça te donne envie de faire ta collecte. Parce qu'ils auraient le tome 25, je sais même pas si c'était sorti, mais le tome qui correspondait à l'arc Cell, on aurait trouvé ça cool comme un goodies, mais le fait d'avoir le tome 1, ben là je pense qu'on a tous pris conscience, c'est-à-dire ok, j'ai un début de collection là, et si j'achète mois après mois le tome suivant, ben je connaîtrai toute l'histoire de Dragon Ball, quoi. Donc vraiment, ça a été le premier pied à l'étrier un petit peu là-dessus, et le jeunesse, voilà, qu'on a poncé. Alors toi, je sais que tu n'avais pas la Super Nintendo, mais tu avais plutôt la Mega Drive avec un jeu un petit peu un équivalent, quoi.
Ah ouais, de petit équivalent. Alors moi, j'ai joué beaucoup chez les potes, voilà, la version Super NES et surtout aux deux, hein, donc jeu de baston sur Super NES. Moi, sur Mega Drive, on l'a rêvé ce jeu parce que vraiment, on bavait sur la version Super NES. C'était l'appel du destin, et je crois, et tu me le fais rappeler, qu'il y avait le même move, c'est-à-dire qu'il y avait le tome. Ouais, je crois qu'il y avait le tome 1 aussi avec ce jeu-là. Qui était centré aussi sur Cell et tout bah, le précédent Freezer, tout ça. Et est-ce que c'est la première fois que j'ai eu le tome 1? Je crois aussi, c'est possible, même si c'était pas la première fois que je lisais. Parce qu'à l'époque, on était dans les rayons des supermarchés, on s'asseyait pendant que les parents faisaient les courses. C'était une autre époque, hein, on avait moins peur de se faire enlever, en fait.
C'est vrai.
C'est jamais de la vie, moi je fais ça aujourd'hui.
C'est vrai qu'avant, tu laissais ton col.
Oui!
Se balader dans le magasin et tout.
Et il était quand même bien moins bon, ce jeu Mega Drive, mais on avait que ça, donc on l'a quand même beaucoup aimé, et on s'attachait aux quelques différences qu'il y avait aux versions Super NES. Par exemple, nous on avait Ginyu, et on pouvait justement faire la transmutation. C'était vraiment pas grand chose, mais sur Super NES il y avait Broly,
alors que nous on avait Broly. Oui, voilà, donc c'est deg un petit peu,
ouais, complètement.
Donc là, moi, ce que je trouve rigolo, c'est quand tu vois, on avait à peine 10 ans tous les deux, et déjà le travail de Toriyama et surtout Dragon Ball, on l'apprend par différents prismes. Le transmédia avant l'heure, on regardait les dessins animés à la télé, on lisait le manga en prenant du début, on jouait aux jeux vidéo. Et évidemment, c'est là où tu prends dans la gueule toute l'intrigue, le Super Saiyan, les tournois, le rival qui devient allié, tous les codes, en fait, ce qu'on ignorait à l'époque, hein, qui constituait le genre du shonen manga. et qui sont pas forcément tous nés avec Dragon Ball, hein, parce qu'avant ça, t'as eu quand même Jojo, Kutonoken, oui. Saint Seiya et tout, mais qui allait devenir une espèce de base, en fait, socle, et qu'on, à l'époque, on l'ignorait. Donc c'est là où on découvre ces codes, et c'est là où c'est le plus fun, en fait. La première fois que tu découvres les codes, quoi.
Ouais, exactement. Même comme tu me dis, ils étaient déjà présents. Moi, j'ai appris sur le tard que tout ce qui était Kutonoken et tout, en fait, avait basé tout le shonen était là-dessus, même le changement de couleur des cheveux et tout, c'est un truc de malade. Mais comme tu dis, l'appréhension de ces codes et l'assimilation et la compréhension, c'était Dragon Ball.
On arrive en 1996 et là, le manga Dragon Ball s'est achevé. Et là, je me rappelle que, bah, un peu comme tout le monde, à tous les notre âge, on allait acheter le tome 42 en japonais,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est la première fois où nous, alors on n'était pas parisiens, mais où nous, on a été confrontés aussi à l'import, hein, donc, mm-hmm. on achetait le dernier tome en japonais, alors qu'il n'était pas encore diffusé en France. La France, il y avait un écart dans la publication du manga, et on voulait voir, voilà, le fin mot de l'histoire. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que je crois que je l'ai déjà raconté, mais je me suis fait endormir ce tome quelques années plus tard par un pote au collège, hein.
C'est pas Giova?
C'est voilà, ouais, donc je pense qu'on peut dire que je me suis fait bien cacarotte, comme on dit. Est-ce que toi aussi, tu fais partie des gens qui ont acheté ce tome japonais, qui ouais. ont rien compris à ce qui se passait, mais il y avait ce côté symbolique, en fait.
Carrément. Et moi, j'avais mes voisins, donc on petit big up à Yacine et Foued, qui achetaient les tomes avant le dernier. C'est-à-dire que c'était attendu, donc pour les Toulousains, tout ça, il y avait tout ce commerce des tomes en VO, en parallèle de toutes les cartes. Je sais pas si tu veux en parler, justement, de la collection
c'est
de cartes.
C'est vrai que non, on va pas trop en parler, mais j'avais pas prévu, mais carrément, c'était un des pans aussi fondamental.
Ah, mais c'était, nous, on était matrixés par Dragon Ball. Enfin, on ne parlait que de ça, quand on regardait les épisodes à la télé le mercredi. Toute la semaine, on parlait que de ça, on jouait au jeu, et il y avait ces fameux tomes en japonais où moi, mes voisins me faisaient croire qu'ils parlaient un peu jap, qu'ils disaient « Ah oui, regarde, il dit ça et tout machin », et ces cartes où absolument, mais 100% de l'argent de poche passait dans les cartes à collectionner. Alors moi, je jouais pas au mode combat.
Ce qui est fascinant, c'est que je n'ai jamais rencontré une seule personne qui savait jouer avec ces cartes.
Moi, je jouais.
C'était pour la collection.
La collecte,
je pense qu'on achetait un paquet de cartes pirates ou des imitations. Enfin, c'était un
peu... Alors moi, je me souviens, c'était pas des paquets. Nous, on les choisissait à l'unité. Alors t'avais les plastifiés, t'avais les machins, mais on n'avait pas c'était pas des boosters. Moi,
c'est
j'ai
vrai.
Jamais
ouais,
connu
ouais,
les boosters,
vrai.
À part les trucs Panini, mais les cartes DB, c'était à l'unité.
Les cartes brillantes, il y en a, tu pouvais même.
Ouais.
Il y avait un truc, faux truc collé dessus, ouais. T'avais eu d'autres cartes derrière, en fait.
Et les plastifiés, alors c'était un peu le Graal, parce qu'elles étaient, je crois, 10 francs, enfin, ouais. 10 balles.
Alors que quand on y réfléchit, c'est nul, en fait. Ils ont pris une carte, ils l'ont plastifiée, enfin.
Ouais, ouais.
Et nous, on s'enflammait de fou.
Et c'était
quoi.
Une dinguerie. Franchement, c'est une. Moi, les cartes, c'est l'un des plus gros souvenirs, presque au-delà du manga. Les cartes, c'était un truc de ouf.
Et moi, je me rappelle que j'avais découvert la transformation Saiyan 3, je crois, il me semble, par le biais d'une carte, en fait.
Oui.
Et du coup, je vois Goku, donc il a les cheveux longs, et je lui dis, oh, il a une gouffa de ouf. Et en fait, après, je vois une mèche qui dépasse, et je lui dis, putain, ça va jusque là. Et
ouais.
En
fait. Et il y avait eu des problèmes, alors je sais pas si c'était des problèmes de pression sur certaines cartes et tout, où il y avait, il y avait Kaioken, Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3. Il y avait une quatrième version, il était chauve. Je sais pas si t'en souviens. Et c'était une version, c'était, tu l'as pas vu, toi, ça? Et c'était, je crois, vraiment
c'était
une problème.
Lutter contre les...
Non, c'était pour complexer pas, les gars, ça arrivera. Mais,
la forme 5, on a tous la même, hein.
Mais en fait, ça avait une espèce de logique. Moi, je me souviens à l'époque, il avait tellement de gouffa que je me suis dit, après, ça va.
Ah, ça tombe.
Ça tombait, tu vois.
Il y a trop de poids, quoi.
Et c'est jamais arrivé. Mais nous, mais mordicus, on y croyait. On s'est dit, bah ouais, le prochain truc, il a plus de veuche, quoi.
C'est rigolo, ça, tiens.
C'est ouf. Alors que pas du tout, parce que Saiyan 4, c'était toujours plus de poils, quoi. C'était toujours plus, ouais.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que malgré, donc, la fin du manga et la diffusion aussi de l'anime, hein, qui est interrompue en plein vol à quelques épisodes de la fin officielle, bah, je trouve Dragon Ball, ça reste encore présent dans nos têtes, malgré tout. Tu l'as dit, on parlait que de ça, on avait les cartes.
Ah ouais.
Et puis, il y avait aussi des œuvres officielles, hein, qui continuaient. On avait des films, hein, qui sortaient même au cinéma en France, on a connu ça. Des séries dérivées, des jeux vidéo, encore une fois. On avait nos magazines de jeux vidéo aussi, qui se foutaient des coups de Dragon Ball dès qu'ils pouvaient, hein. C'était un petit peu un mois sur deux.
Ça, c'est un big deal. Ça, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai claqué j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent un pauvre magazine, parce qu'il y avait peut-être un médaillon avec un Goten.
Ouais, il suffisait qu'il y ait une évocation, en fait.
Et c'était abusé. Et à l'intérieur, il y avait rien du tout. Souvent, il y avait rien du tout. Où il y avait une pauvre image, tout ça. Mais, nous, c'était une époque où on connaissait, enfin, l'arc-bout et tout. On n'était pas encore dedans. Donc, de voir, Goten ou ce genre de truc, ça nous excitait à mort. Et, vraiment, c'était, aujourd'hui, tu sais, on parle de tout ce qui est clickbait, les titres, aguicher l'auditeur
ça
ou le spectateur.
Existé, hein.
Non, mais là, on était dans des proportions, mais indécentes.
Ça indécent. Volait l'argent du goûter aux enfants.
Ah, ça volait l'argent du goûter. Mais vraiment, ouais, moi, je me souviens de ça. C'était très, très, très. À ce fameux carrefour de portée, il y avait un kiosque au début à l'entrée.
Oui,
je sais pas si t'en souviens. Mais
ah, si,
je passais ma life là-dedans à regarder le moindre petite image de Dragon Ball.
Et donc voilà, l'œuvre, elle est finie en tant que telle, mais on n'a jamais entendu. arrêter d'entendre parler Dragon Ball. Enfin, quelle œuvre continue autant à être alimentée ou à occuper autant les esprits après sa sortie? Enfin, je pense qu'il y en a pas beaucoup, quoi.
Ouais.
Donc là, on s'approche un petit peu des années 2000, en fait. Et on va découvrir aussi d'autres mangas, finalement. Tu vois, notamment, il y a l'arrivée de Kana à cette époque, l'éditeur Kana.
Oui.
Et sur le marché, en fait, on dit souvent ça pour la vanne, mais c'était vrai. C'est qu'on était 4-5 potes à lire du manga et qu'on se partageait tout le marché, quoi. Attends.
Ouais.
Parce que le marché était jeune encore.
On pouvait tout lire.
Et donc, on était 5, on se partageait les séries. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et on s'échangeait tous les tomes. On suivait toutes les séries en même temps, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, là, on va découvrir d'autres shonen, hein, qui vont nous attirer, qui vont peut-être même plus nous plaire que Dragon Ball, finalement. Moi, je sais que Hunter x Hunter, c'est une série que je porte peut-être encore plus haut, machin.
Kenshin.
Mais t'as, voilà, t'as Kenshin, le Gabon, t'as du One Piece qui arrivera à boire un petit peu encore plus tard.
Kyo,
Samurai d'Hyper Kyo. Et là, alors, je sais pas si ça a été fait pareil, mais je me suis dit, mais en fait, Dragon Ball 42 tomes, donc la série, je pensais que c'était gigantesque, tu sais, l'œuvre fleuve, les Rougon Macquart et tout. Et en fait, on se rend compte que, pas tant que ça. Tu vois, Naruto, il y a 72 tomes, Bleach 74, One Piece, j'en parle même pas, on est au 106e tome et c'est pas fini. T'as vu cette impression aussi, toi, de découvrir juste Dragon Ball, c'est un peu le sommet de l'iceberg et tu découvres un autre monde.
Ouais, et que finalement, c'était assez ramassé et qu'il n'y a pas,
y a pas tant d'arc que ça.
Ouais. Et c'était plutôt, à posteriori, j'apprécie encore plus, tu vois, parce que les animés, la longueur des animés, la différence qu'il y a avec le manga, c'était quand même quelque chose aussi, quoi.
En 2001, on a droit à une petite sucrerie, c'est le manga Kajika. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, c'était le nouveau manga de l'auteur de Dragon Ball, quoi. Le nouveau Akira Toriyama, c'était un one shot. C'était pas incroyable,
non,
mais c'était on prenait tout ce qui arrivait, parce que en fait on était tellement en dèche, quoi. Et je sais pas si t'as marqué, mais moi il m'a marqué aussi, mais parce que c'est le premier manga de Toriyama que j'ai découvert après Dragon Ball, quoi.
Ouais, c'est un peu comme tu dis, l'acte de on a quelque chose d'autre après Dr. Slump. Moi je l'ai découvert après.
Ouais, et justement, c'était, tu m'as prêté les Dr. Slump, mais qu'on t'avait prêté.
Exactement.
C'était qui, ça, ça venait d'où, en fait, de qui?
Je crois que c'est Julien Gomez du lycée, je crois que, oui, je te big. Mais oui, prêté. Et
ça, c'était sur le tard, aussi, incroyable. Bah, c'était plutôt dans les années 2000, hein, ouais, je pense que.
Et Dr. Slump, dinguerie, parce que vraiment, il y avait les prémices de Dragon Ball, mais même l'envie. Alors ça, je sais pas si tu vas le faire, mais on peut vous renvoyer à l'émission de Tsumimasen, où ils sont très très précis sur les inspirations, ce qu'a été Dr. Slump avant Dragon Ball, mais nous on l'a vécu à l'envers.
Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas conscience du phénomène qui a été Dr. Slump, hein, notamment au Japon, où ça a déjà fait Toriyama une superstar.
Ouais.
Là où nous, on l'a toujours vu comme quelque chose, un projet B-side un peu, alors que non. Et en plus, c'est génial, Dr. Slump.
C'est trop bien. Mais moi, j'avais pas très bien compris ce que c'était. Je pensais que c'était une sorte de mascotte, que c'était pas vraiment un manga. Je l'ai capté que plus tard. Et le manga, je vous le conseille, il y a une Perfect édition qui existe chez Glénat, je crois.
Ouais.
Et elle est, le manga est vraiment super hilarant, très très marrant. Enfin, c'est vraiment super.
Donc, je te remercie 25 ans plus tard de m'avoir prêté des mangas qu'on t'a prêté, mais ça m'a permis de découvrir tout ça, quoi. On continue dans les années, et là, on ouvre un peu le côté, le jeu de baston Dragon Ball, on en a parlé un tout petit peu, mais là aussi, ils nous ont accompagnés régulièrement. Sur Super NES, le dernier, c'était Hyper Dimension.
Ouais.
Celui que je n'ai jamais eu. Celui que tu t'es rattrapé, toi.
Meilleur.
Meilleur.
On a fait le top 3 dans Red Alert des jeux de baston, et moi, il est dans le top 3 parce qu'il
avait une qualité graphique de ouf.
Exceptionnel. Joué en Jap avec son mode story, qu'on n'a pas eu en Europe, mais il était vraiment sublime. Vrai jeu de baston dans le sens où il n'y avait pas cette fracture de l'écran quand dans Dragon Ball on s'éloigne, les deux personnages s'éloignent, l'écran se split façon 24 heures avant l'heure. Là en fait non, c'était un vrai jeu de versus où tu restais assez proche pour te bagarrer, quoi.
Alors là, la génération PlayStation avait un petit peu calmé nos ardeurs, hein, parce qu'on a droit à des jeux pas terribles. On a le fameux Dragon Ball Ultimate Battle 22. Alors on était comme des oufs parce qu'il y avait masse personnages et tout, mais en fait c'était quand même une grosse rogne, hein, ce jeu.
Ça ressemblait à un jeu Flash où t'avais les animations qui étaient un peu éclatées. Moi c'est plus le Final Bout.
Et il y avait le Final Bout, alors qui était en 3D, mais une 3D assez sommaire, on va dire, et qui avait des persos Dragon Ball GT, je crois.
Sur la jaquette, c'est Goku GT, mais adulte, un peu chaud.
Ouais.
Mais celui m'a plus marqué parce que c'était le côté 3D, le côté.
Mais même s'ils étaient nuls, on y jouait quand même.
Ouais, c'était complètement. Sur Saturn, il y en a eu un aussi où il y avait un million de personnages.
On parle aussi de Tobal. Alors moi, j'avoue, je n'ai jamais joué à Tobal. Je sais pas si toi, tu as joué. Donc c'est designé par Akira Toriyama, donc avec des persos super classe. Un jeu de baston de Square Enix, enfin de Square à l'époque, hein, ce qui n'était pas forcément commun. Est-ce que toi, t'es un fan de Tobal?
Alors je suis pas fan. J'y ai joué un petit peu, toujours pareil, hein, grâce aux voisins, tout ça. Mais c'est ce qui est intéressant. Moi, c'était ce mode story où t'avais même un petit peu de RPG où tu devais faire des choix. Et c'était un jeu qui était de mémoire assez complet,
qui a une grosse réputation, hein, notamment
assez,
le 2.
Hein. Ouais, assez complet, assez complexe, avec des palettes de coups. Alors, ça faisait très rip-off parce que même les personnages que Toriyama a designé, tu voyais à quoi ça correspondait un peu, tu vois, t'as le fameux Gohan et tout ça, ouais. Et même les mouvements me faisaient penser beaucoup à Tekken à l'époque. L'enchaînement de base du personnage principal de Tobal, c'était assez similaire à Tekken, mais c'était hyper qualitatif. Et puis en bon Japanzouz, tu vois, à l'époque, Tekken c'est nul, tu vois. Donc nous, on voulait un jeu de combat en 3D japonais.
S'il vous plaît.
Même si Tekken est déjà japonais, je suis con. Mais
oui, mais voilà, qui pas forcément, parce que je crois c'est le 1 qui est pas sorti chez nous ou le 2. C'est le 1 des 2 n'est pas sorti, je crois.
Je crois que c'est le 2 qui est pas sorti chez nous.
Ouais. Et donc je l'ai dit, la génération PlayStation a un peu mis bif bof, mais sur PS2 on a quand même la trilogie Budokai. Et là on est reparti comme des flèches, quoi.
Ouais, Budokai ça a été une rupture parce que vraiment tous ces jeux de baston, moi je les voyais. Enfin aujourd'hui je me dis c'était nul. Et même à l'époque on était assez lassés. Et Budokai ça a été le gap graphique, tu vois, la PS2, c'était un truc de ouf.
C'était l'initiateur aussi de ces adaptations comme on connaît aujourd'hui, hein, du Naruto, du Demon Slayer et tout, où tu peux sortir les coups de manière fluide dans des enchaînements, un jeu qui sont assez faciles à prendre en main et surtout spectaculaires. En fait,
et le système de capsule, hein, où en fait tu pouvais en fait un petit peu customiser, faire une sorte de build à ton personnage, où tu lui mettais des capsules avec des capacités propres, c'était super intéressant. Tu pouvais pas faire n'importe quoi à ton Goku, tu pouvais lui mettre la capsule Saiyan par exemple, mais si tu mettais la capsule Kaioken, tu pouvais lui mettre d'autres coups alors que t'avais pas assez. En fait, c'était des sortes de slots.
Ouais.
C'était super. En revanche, moi, je suis team Budokai, mais pas du tout Tenkaichi,
ouais,
parce que
qui arrive après, qui là, c'était plus un mode un peu comme un Virtual On, on va dire, ou avec une fuite derrière, qui sont moins faciles à prendre en main, quoi.
Et là, le Sparking qui arrive bientôt, Dragon Ball, reprend un peu le style de Tenkaichi.
Ouais, alors que Budokai, c'était de la pure 2D.
Ouais, et c'est trop marrant parce que en Jap, je crois, et dans les mangas, les tournois Dragon Ball, c'est les Budokai Tenkaichi. Et ouais, j'ai jamais capté pour quelle différence il y a eu, pourquoi on appelait ça Budokai, pourquoi on appelait ça Tenkaichi.
J'avoue, je ne sais pas.
On prendra à Ken.
Ouais. Ouais. Et donc les jeux de baston évidemment jusqu'à Dragon Ball Fighters, hein, bien plus récemment. Moi c'est vrai que je suis toujours resté attaché à Street Fighter et le Street Fighter 4, c'est un des derniers gros jeux de baston que j'ai un petit peu poncé, mais Dragon Ball Fighters aussi fait partie de ces jeux de baston qu'on a poncé pas mal, hein. Donc on y jouait souvent entre midi et deux.
Bah après Fighter Z c'est un peu un rêve éveillé, quoi. C'est que le jeu est plus beau que les animés à l'époque, ça bouge, t'es en contrôle, c'était vraiment incroyable. Et puis le fait que le titre était hyper qualitatif, c'est pas pire, quoi. T'es pas sur le jeu de baston qui est bif-bof, que tu prends juste pour la licence, c'est que c'était un bon jeu de baston malgré tout, quoi.
Ouais, donc là on revient un tout petit peu en arrière, on est aux alentours de 2006, hein. De la même manière qu'on a découvert que tout ce qui existait dans le manga à partir de Dragon Ball, bah dans le RPG ça va être un petit peu pareil, en fait, où nous on avait un peu Final Fantasy, en fait, on découvre pour la première fois Dragon Quest, qui est le OG JRPG, voilà, le vrai, le pur, celui que les Japonais préfèrent, hein. Et donc il a fallu, vous le savez, attendre énormément de temps pour avoir notre premier Dragon Quest chez nous. Donc c'était l'épisode 8, donc sur PS2, donc c'était en 2006. Et là aussi c'est un petit peu la découverte d'un truc qu'on a entendu parler toute notre jeunesse, quoi. Est-ce que tu te souviens de cette époque là moi j'ai trop de souvenirs aussi de cette époque.
Pareil, parce que c'était l'époque où on était en appart, où
on avait moins de responsabilités, on va dire.
Donc ouais, Dragon Quest 8 c'était ouf. Moi je me souviens surtout, c'est découvrir le game design de Yuji Horii, tout ça, où je me disais, waouh, c'est tellement ciselé, à ce niveau-là, il faut être... Enfin,
tout est poncé par le premier boss.
Ouais, tu te fais décalquer, tu vas faire un peu de grinding, il faut savoir bien contrôler ton combat et tout. Et ce qui était, je trouve, assez différent de Final Fantasy, là, c'était vraiment au cordeau, ouais. Et moi, je me souviens de ça surtout.
Puis surtout, c'était le premier Dragon Quest qui avait cet apparat graphique. C'est vrai que les Dragon Quest n'ont jamais été des jeux niveau technologique de ouf. Là c'était vraiment un jeu qui était magnifique à
l'échelle 1 et tout, enfin ça c'était chouette, quoi.
Avec ce cel shading qui rendait vraiment justice au design de Toriyama, quoi, pour le coup. Et 2006 aussi c'est Blue Dragon qui arrive sur Xbox 360. Donc Blue Dragon, vous connaissez l'histoire, c'est que Sakaguchi a quitté Square Enix après l'échec du film Final Fantasy, donc il monte le studio Mistwalker. Alors nous à l'époque, je pense, voilà, on avait grandi un peu, on était plus focalisé sur Lost Odyssey avec le design de Takehiko Inoue, donc autre mangaka star des années 90, hein, qui a fait Slam Dunk, fait Vagabond, mais t'avais ce Blue Dragon avec le design de Toriyama. Alors moi, quand je pense à Blue Dragon, je pense qu'à une chose, c'est toi qui me racontes la scène de la danse de l'amitié dans le jeu.
L'amitié, ouais.
Que tu t'en es pas remis, je pense.
Franchement, c'était dur, mais c'est marrant, mais comme quoi le temps évacue.
Je pense que tu l'apprécierais peut-être plus aujourd'hui.
Ouais, carrément. Mais alors c'est pas un mauvais jeu, c'était un jeu qui était très scolaire, on peut dire, mais c'était aussi intéressant de voir le design de Toriyama en mode next-gen de l'époque, sur 360. C'est vrai qu'avec Lost Odyssey, c'était quand même des RPG qui étaient super beaux. On était en attente dans cette génération de JRPG qui n'arrivait pas, et finalement voilà, c'était Sakaguchi sous le giron de Microsoft qui en apportait, donc ça faisait double rupture.
Ouais, et puis t'avais Lost Odyssey qui était un peu le Final Fantasy, le côté blockbuster spectaculaire, et Blue Dragon qui était peut-être
le Dragon Quest
traditionnel avec ses persos en cel shading.
Je sais même pas s'il s'en cachait, quoi. Tu avais même Lost Odyssey et tout, et donc reprendre Toriyama pour Blue Dragon. Et finalement, il y a eu plusieurs jeux, quoi. Il y a eu un manga qui a été fait par Obata,
c'est
donc
vrai.
Monsieur Hikaru Nugo.
Ouais. Tu dis pas Death Note, en vrai, toi.
C'est vrai, Death Note. Exactement, Death Note.
Il y a eu une suite sur DS, je crois.
Il y a eu une suite, mais le manga, par exemple, il y a rien à voir. La suite, c'était un peu plus stratégique, comme toutes ces suites qui n'étaient pas finalement des RPG, mais qui étaient beaucoup plus denses, avec beaucoup plus de personnages. Et chaque personnage avait une grande ombre bleue.
Ouais, comme un stand de Jojo.
Ouais, c'était ça. Et
c'était un jeu un peu plus enfantin, on va dire. Et peut-être qu'à l'âge où tu l'as fait, c'est pas forcément ce que tu recherchais. Quoi.
Exactement. Mais je serais très curieux de le refaire aujourd'hui. Et c'était un jeu qui avait quand même des bonnes idées. Et qui avait, moi je me rappelle par exemple d'un peuple robot qui était très intéressant. C'était pas Nier Automata avant l'heure, mais presque. Mais c'était une super bonne idée de Blue Dragon.
2009, donc 3 ans plus tard, là c'est Chrono Trigger, le jeu mythique de la Super Nintendo, qui arrive enfin pour la première fois en France, en version traduite et sur Nintendo DS. Or pour nous qui ne l'avions pas fait, c'était le jeu avec le sangouin aux cheveux rouges. Hein. C'était le héros qui avait un peu la même gueule. Alors moi j'avoue, ça a été la claque sur la DS. Je pense que c'est un de mes JRPG préférés. Et qui avait à la fois ce côté simple. De toute façon, tu nous as parlé dans une chronique, j'ai pas noté le numéro, désolé. Qui est à la fois simple, mais qui avait quand même de la complexité. Qui avait un système de jeu profond, mais qui s'apprendait de manière très facile en fait. Et on parlait de Dream Team 92, ouais. Legio. Et là, c'était la Dream Team du JRPG avec donc Toriyama Sakaguchi, est rejoint par Yuji Horii, donc le père de Dragon Quest. C'est un des jeux mythiques, de toute façon, on en a déjà parlé. Donc,
C'est top 10 all time, c'est l'un des plus grands JRPG de l'histoire. C'est, comme on peut dire, tu sais, des choses qui sont parfaites, dans le sens où elles sont...
Il n'y a rien à enlever.
C'est vraiment les pures. Et là, c'est un JRPG qui est ramassé, qui est propre, qui est fait par... On parle de la Dream Team du trio, mais on l'a dans la chronique de Red Alert, on en a parlé. Il y a des grands noms de partout qui commençaient dans le JRPG. Non, franchement, on vous renvoie au précédent Red Alert. Et,
dinguerie, quoi.
Ouais, dinguerie sans nom, quoi. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Aïe, aïe, aïe. 2015, alors là, c'est la mode. Hein. Chaque licence se voit propulser le jour de tel truc. T'as le Batman Day, t'as le Alien Day, t'as le May the Force pour Star Wars.
Ouais.
Là, c'est le Goku Day, donc Goku le 5-9, donc le 9 mai, okay. Devient le Goku Day. Là, il y a tout un revival qui va s'enclencher autour de Dragon Ball Super, donc nouvelle déclinaison de Dragon Ball après GT. Mm-hmm. Donc là, c'est des nouveaux films au cinéma, une nouvelle série télé, des mangas. Enfin, c'est vrai qu'on était plutôt jeunes déjà à l'époque, mais il y a eu cette vraie excitation, je sais pas si tu t'en souviens, là-dessus. Et c'est vrai que, alors toi, peut-être plus que moi, mais tu t'es laissé vraiment embarquer là-dedans.
C'est vrai que DB Super ne me déplaît pas, et je fais partie de ceux qui le défendent. Alors, j'essaye vachement, moi, de prendre en compte l'âge à laquelle où on a découvert Dragon Ball. Et en fait, DB Super, j'estime que c'est pas forcément beaucoup moins bon que Dragon Ball. C'est juste que c'est nous qui avons grandi et on a peut-être pas les mêmes attentes. Un exemple tout bête, en ce qui te concerne, à chaque fois, tu me dis, ouais, moi, j'aime bien ces séquences ou ces chapitres qui correspondent, en fait, à l'époque, à des épisodes filler. Par exemple, le fameux Goku Piccolo qui passe le permis.
Ouais.
Toi, dans DB Super, t'aimes bien ces entre-deux, ces arcs, en fait, où on va découvrir l'épaisseur des personnages. Parce que c'est pas ce que tu attends finalement de Dragon Ball.
Oui, alors ouais. Si j'avais eu 12 ans, j'aurais détesté.
Exactement. Donc nos attentes ont un petit peu changé, mais je me demande si Dragon Ball finalement a tant changé. Et il y a des persos super dans DB Super.
Et donc Dragon Ball Super, le manga continue. Hein. Je crois avoir l'animé s'est arrêté, mais le manga continue.
Ouais, ça c'est compliqué parce que même il change. Là, tu vois que c'est un petit peu compliqué parce que normalement il devait y avoir les films qui étaient canon, qui venaient en support des mangas. Par exemple, tout ce qui est la présentation de Beerus, tout ça, c'est dans les films et les mangas en fait fait suite. Après, ils ont décidé que les films allaient s'intercaler. Et là, très récemment, les mangas en fait re-racontent certains films. Donc c'est un petit peu le bordel.
Ouais, là encore, c'est transmédia full. Ballon quoi. Donc voilà, 2015, là les années passent et finalement, même s'il produisait plus forcément beaucoup et qu'il brillait plutôt par son absence, on a toujours ce sentiment qu'on allait entendre parler d'Akira Toriyama d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Hein. Alors parfois de manière plus incongrue, comme en 2017, l'enquête des Paradise Papers, donc ça c'est une grosse enquête au niveau mondial sur l'évasion fiscale. Il y a son nom qui est cité dedans. Bon, on se doute qu'il avait un comptable peut-être.
C'est Panama, non? T'as dit Paradise?
C'est les Paradise Papers.
C'est Paradise, hein, je confonds, c'est quoi Panama Papers? C'est autre chose, non?
Ouais. Mais peut-être que je me mélange. Mais voilà,
je crois que ça n'a rien à voir.
Donc on entend encore parler de Toriyama, là, je l'ai dit de manière surprenante. Et voilà, jusqu'à 2024, hein, jusqu'à ce 8 mars 2024, où on a appris le décès de l'auteur. Mm-hmm. La coïncidence a fait que toi, tu étais au Japon à ce moment-là.
Oui.
Alors déjà, toi, comment est-ce que tu l'as appris? Comment tu l'as vécu? Et aussi, comment est-ce que c'était là-bas, quoi?
Alors, c'est marrant parce que moi, les gens qui décèdent, qui sont des gens populaires, qui sont des icônes de notre jeunesse et tout, moi, ça me fait jamais rien. Même vous foutez de moi, genre, j'ai pas de cœur et tout. Mais c'est vrai que ça me me fait rien, même si j'appréciais des chanteurs. Et en fait, ça m'est arrivé par deux fois avant Toriyama, c'était pour Michael Jackson et pour Kobe, où vraiment c'était des personnes que je connaissais pas personnellement, mais qui m'étaient si chères que ça m'avait quand même touché. Mmh. Et Toriyama, c'est la troisième personne à qui vraiment ça m'a un petit peu bouleversé. Et donc ouais, j'étais au Japon et que ça soit Michael Jackson ou Kobe, je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai appris. Et là au Japon, j'étais au resto en fait, et face à moi il y avait une télé et ils ont passé un flash spécial. Et même si je ne parle absolument pas japonais, j'ai tout de suite compris ce qui se passait.
Tu vois dans le ton direct. Enfin, tu sens que c'est pas pour fêter un anniversaire, quoi.
Ouais, j'ai tout de suite capté ce qui s'est passé, et donc tout au long du voyage, j'ai pu constater que c'était aux infos continuellement. Donc je suis resté un petit peu plus d'une semaine, on va dire, et donc de jour en jour, ça continuait à rester en une de l'actu. J'ai pas réussi à comprendre ou à savoir si ça faisait aussi les grands titres de la presse papier. Ça, j'ai pas la connaissance et j'ai pas pu tilter. En revanche, au Japon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Dragon Ball est plus temps présent. Alors là, je vous parle d'un point de vue touriste. Mmh. Donc moi, je suis quand même allé trois fois au Japon, donc connais un peu les bails, on va dire. Mais tu vois, c'est les 50-50 de Doraemon, et Doraemon l'a fait un anniversaire, mais Dragon Ball fête aussi ses 40 ans. Non. Mmh. Mais Doraemon est tellement plus représenté partout, avec des shops spécialisés, avec des goodies partout Dragon Ball. Franchement, pour amener un petit peu des goodies aux potes, mais j'ai galéré. Il va falloir aller traîner à Akihabara ou à Nakano Broadway, des trucs typiques spécialisés dans les goodies de touristes, pour trouver l'empreinte en fait de Toriyama. Elle est plus si présente. Néanmoins, à sa mort, là, tu vois, un petit peu le monde s'est arrêté pour qu'ils puissent en parler. Après, faudrait peut-être, il y a des auteurs à nous, Victor Moisan qui est là-bas, Thierry Falcoz, qui pourraient vous en parler, qui ont aussi des médias et qui vont pouvoir vous dire au Japon comment eux ils l'ont compris, en étant pleinement dans la langue.
Oui, tu l'as dit, toi tu l'as vécu du côté touriste, qui ne parlait pas forcément la langue, mais bon, c'est quand même, t'as quand même des ressentis aussi là, ouais, liés à ça, quoi.
Et toi, tu te souviens, t'étais à la rédax, c'est
Alors moi, je l'ai su en ouvrant Discord, en fait, hein. Donc on a un Discord où on discute entre nous, et c'est Ken, je crois, le premier qui a posté l'annonce. Et c'est tout con, mais mon premier réflexe, c'est, alors je suis pas un conspi, hein, mais j'ai pas cru.
T'as pas cru?
Je me suis dit, tu sais, il est tellement saoulé qu'on le dérange et tout, genre il a rejoint Elvis et Michael Jackson sur leur île cachée, en fait. Tu vois, c'est un espèce de réflexe un peu bizarre, en fait, ouais. Ce qui fait que j'ai pas eu la montée d'émotion immédiatement et tout, j'ai eu ce premier réflexe un peu bizarre. Et c'est vrai que, ouais, après, comme tout, dans ces cas-là, quoi, t'es un peu,
tu sais pas trop quoi faire, tu réfléchis à tout ce que la personne et son œuvre racontaient pour nous.
Et c'est ça qui est pour ça que je voulais tourner ma chronique là-dessus aussi, c'est de dire que finalement, qu'on sache qui était Toriyama ou pas, finalement, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés tout le temps, et que même maintenant, en fait, il continuera à nous accompagner, parce que maintenant qu'il est plus là, t'as Sandland, la série qui arrive sur Disney+, oui. T'as le jeu Sandland qui va arriver, nul doute, Dragon Ball, on sait qu'il y a un nouvel anime en préparation, donc voilà, son œuvre, elle va lui survivre, ça c'est certain. Et voilà, c'est que on a été accompagné et baigné là-dedans toute notre vie, finalement. Et voilà, donc c'était pour dire que la vie continue derrière, quoi.
C'est sûr, ouais. Sachant que tu faisais cette chronique, j'ai essayé de trouver une analogie ou quelque chose pour, en fait, montrer à quel point Toriyama, il était important, et je n'ai pas trouvé d'autre que, et vous allez voir, c'est sinistre, et j'en suis désolé, mais est-ce que vous avez vu la liste de Schindler? La liste de Schindler, c'est l'histoire d'une personne qui a sauvé des gens d'un camp, et en fait, par la suite, on a dit cette personne a sauvé 5000 personnes, mais elle a pas sauvé 5000 personnes, c'est que c'est les gens qu'elle a sauvés ont après eu des enfants, etc., etc. Et au final, il a sauvé. J'ai pas trouvé d'autre analogie que ça, c'est que Toriyama, en fait, sans lui, le nombre de vies qui auraient été, en fait, pas sauvées, mais modifiées. Mmh. Ce mec-là, il a changé l'ensemble d'une industrie complète. C'est-à-dire que le manga, sans lui, ça a un autre visage. Mais pas que. Tu vois, il a changé l'ensemble de l'entertainment japonais, la culture japonaise qui s'est exporté en Europe, aux États-Unis, un peu plus sur le tard, mais vraiment c'est global, c'est mondial. Et j'ai pas de mesure, en fait, autre que ça, c'est que c'est un truc de malade. Il a changé, en fait, ce mec-là a changé des vies, parce que sans Dragon Ball, tu vois, peut-être qu'on serait moins intéressé au manga, on serait moins intéressé au Japon, on serait moins intéressé aux jeux vidéo, ainsi de suite.
Ça a été un pont, même si on n'est pas forcément fan de son œuvre, ça a été un pont qui nous a ouvert à toute une culture, à des genres différents.
Oui.
Nous, c'est vrai qu'on avait le jeu vidéo aussi, oui, là-dessus, en parallèle, mais il a aussi participé à son échelle, hein. Et c'est vrai que nous, les premiers, alors, sans dire qu'on ferait pas ce qu'on fait s'il n'y a pas eu Toriyama, peut-être pas, mais forcément, il a eu un impact énorme, quoi.
Après, c'est l'effet papillon, mais tu vois, sans Dragon Quest, il n'y a pas Final Fantasy, sans Toriyama, il n'y a pas Dragon Quest, etc., etc. Donc l'impact qu'il a sur plusieurs marchés, plusieurs industries, il est, je pense, incommensurable. C'est vraiment un truc de, enfin, de son impact. Je pense qu'on peut pas le mesurer, c'est ma boule. C'est pour ça que aujourd'hui on est tous touchés et c'est la moindre des choses de rendre hommage à notre toute petite mesure. Quoi.
Voilà, c'était un peu l'idée à notre petite échelle malgré tout.
En tout cas, n'hésitez pas vous à témoigner de votre affection pour Toriyama. Est-ce que ça vous a touché, les éléments qui vous ont marqué, comment vous avez découvert le manga, les jeux, etc., etc. Et de toute façon, là, on va avoir l'occasion d'en parler encore un petit peu de Toriyama parce que c'est l'heure de l'interlude top 3, un interlude top 3 qui s'intéresse cette semaine. Au meilleur personnage de Toriyama. C'est vrai que dans les interviews top 3, souvent on essaye de faire quelque chose qui n'est pas connexe à nos chroniques. Mais là, on va dire que c'est un atterrissage en douceur.
Pour donner un peu du bon mood à cette mauvaise nouvelle.
Ouais, allez, je te laisse commencer avec ton top 3.
Alors j'essaie de ne pas faire que du Dragon Ball, mais c'était pas forcément facile. Mais bon, au moins pour le troisième, je suis allé du côté de Dr. Slump pour en parler. Et je parlais du perso de Gatchan. Alors je sais pas si tu te souviens, c'est le petit ange en fait.
À mourir de rire.
Qui est ultra mignon, qui est trop rigolo et tout. Et à un moment même, il se dédouble en fait. Et t'as deux Gatchan dans la série. C'est un des persos, je trouve, les plus drôles. Ce sont tous les persos de Dr. Slump sont géniaux et sont à mourir de rire. Mais Gatchan, il a en plus cette bouille de trop mignon et tout de gamin et trop cool. Quoi.
Mais la réussite de ce perso, c'est que dans n'importe quel autre manga ou jeu, souvent, vous savez, la petite fée qui te parle ou le petit sidekick qui t'accompagne, t'as envie de le tuer. Ouais. Alors que quand tu le dis dans Dr. Slump, quand ce personnage se dédouble, moi j'étais juste trop content parce que c'est juste deux fois plus mignon et deux fois plus marrant. Et ça, je pense que c'est extrêmement rare. Et Dr. Slump, on vous le conseille vraiment, vraiment chaudement. Mon top 3, moi, c'est un peu symbolique, c'est le slime, tout bêtement. Mmh. Cette figure du gluant qui est devenue une sorte de mascotte pour Dragon Quest.
Ouais, carrément, mais
même presque au-delà. Au-delà. Donc on parlait tout à l'heure de Doraemon qui est un manga, là on sait pas aussi fort, mais le slime c'est quand même quelque chose qui est très important, ce slime bleu même. Alors, on conseille qu'il y a d'autres slimes, Il y a le metal slime qui rapporte beaucoup d'expérience, lui on le cherche partout, mais l'anecdote est connue et on peut vous renvoyer vers un livre d'un confrère de Mana Books, donc qui a sorti un artbook justement sur Akira Toriyama et Dragon Quest, parce qu'il a pas fait tous les designs de Dragon Quest, mais en tout cas là ils sont ciblés, et donc voilà, il y a cette anecdote où Yuji Horii demande à Toriyama de faire un gluant, mais façon Donjons et Dragons. Et lui, en fait, il va faire un rond, deux yeux et un sourire. Et de toute façon, c'est toujours pareil, c'est cette simplicité.
Ouais, et ça marche.
Et qui marche de ouf. Et le slime, je trouve que c'est un bête de design. Trop mignon et trop bien.
Carrément, carrément.
Ton top 2.
Mon top 2, on va rentrer dans le dur, là, avec Trunks du futur, comme on l'appelle.
Mirai Trunks.
Parce que déjà son arrivée, je trouve, dans le manga, elle est ouf. Hein. Donc on vient se taper l'arc Freezer avec Sangoku qui l'a battu, mais au péril de sa vie, vraiment c'était chaud de ouf. Et là Freezer revient contre toute attente et il se fait défoncer en 2 secondes et demie par un mec. Ouf. Et en plus je trouve le look en fait de Trunks, il est génial. Déjà ses cheveux coupés au bol violet quand il devient Saiyan, c'est original. Il a son épée, sa petite veste du futur. Il avait vraiment ce design. Le mec vient du futur et stylé quoi.
Ouais.
Et c'est pour ça que je trouve il est cool. Après je suis pas spécialement fan du perso de Trunks au global parce que sa version petite et tout m'intéresse pas trop.
Ça c'est un petit con.
Mais ce perso-là, le Trunks du futur, je le kiffe.
Mais le fait qu'il ait une épée, déjà pourquoi t'as une épée, t'es un super saiyan, et c'est resté, parce qu'après dans DB Super, ce Mirai Trunks, il a des transformations particulières, où il a une épée géante bleue d'énergie.
Ah ouais,
ouais, ouais. L'épée, c'est devenu vraiment quelque chose qui est indissociable de ce personnage. Après, on a su, c'était Tapion et tout, tu vois, ça bricole.
Ouais, ça bricole de ouf.
Ça bricole de ouf, mais... c'est resté quand même, tu vois, une caractéristique plus que... Alors moi, ce que j'aime bien dans ce Trunks là, c'est quand il enlève sa veste qui, quand même, d'accord, ridicule, tu vois, elle lui arrive
c'est
en
un
haut,
petit, ouais, les petites vestes.
Mais quand il est en petit Marcel noir, et justement, c'est son look dans le jeu Super Nintendo.
C'est vrai.
Qui était super
le
classe.
Le futé de Marcel, ouais.
Alors que nous, sur Mega Drive, il avait gardé sa veste, on était bien deg. Et puis il avait son caméa à lui où il fait 1000 mouvements et tout. Enfin, c'est quand même
méga stylé. Et je trouve dommage que dans Super, ils ont changé un peu la couleur des cheveux pour faire plus bleu.
Plus bleu,
en
ouais.
Fait, ouais.
Ouais, non, t'as raison. Après, il a son petit foulard, tout,
ouais,
il a changé.
C'est pour harmoniser peut-être avec Bulma, je pense.
Mais Trunks, c'est toujours un personnage qui est important, même dans GT, qui n'est plus canon, tout ça, mais il est toujours, c'est lui qui accompagne finalement Goku et qui est devenu, son sidekick, mais il est tout le temps très très présent, quoi. Mm. Plus que d'autres, et c'est mon top 2, et je sais pas, je regarde pas ton top 1, mais moi c'est Gohan. Est-ce qu'on en parle plus tard? Allez, je crois qu'on en parle
plus tard.
On en parle plus tard. Allez. Donc, ton top 1. Non, c'est maintenant?
Oui.
Donc quand t'as pas assez, on en parle
tout de suite en fait.
Le mec est perdu, il y a que trois chiffres.
Moi c'est Gohan, mais à la fois le Gohan ado, donc qui combat Cell en mode Saiyan 2, qui est trop stylé et tout, et à la fois le Gohan adulte, donc je sais pas s'il a, il a un nom précis. Hein,
celui avec la tenue de Goku.
Voilà, celui qui est jouable dans Fighters, où il est plus en Super Saiyan parce qu'il a une transformation différente.
Ouais, c'est le sort de Perfect en fait, il est...
Ouais, et c'est les deux designs les plus ouf, je trouve, les deux persos les plus classe qu'a fait Toriyama, c'est le même perso en plus. Et autant on peut râler en disant Gohan, il devient après nul avec ses lunettes, il veut faire de la science et tout, mais je trouve le message beau, tu vois, que le perso, c'est lui le plus fort, mais il décide de pas se battre, il en a marre, il veut plutôt, voilà, apprendre et faire que le monde soit meilleur plutôt que juste taper sur la tête des gens, quoi.
Bah écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais même jusqu'à, de son design, jusqu'à sa symbolique, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'il symbolise même plus ce qu'est ou ce que voulait véhiculer Toriyama que Goku. Comme tu dis, la phase de rédemption, ça reste des aliens, hein, des extraterrestres. Et en fait, Gohan, il a réussi, lui, à s'intégrer en disant bah, « je suis le plus fort, mais je vais faire des études ». Et finalement, c'est le plus fort. D'un super, il revient, il a encore une nouvelle
transformation. Ouais, mais t'as un peu cette espèce de, voilà, c'est l'acte manqué. À chaque fois, on a envie de voir Gohan revenir. Il revient, c'est le plus fort, puis il repart. Enfin, c'est toujours...
Et son design, celui avec la tenue de Piccolo, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Ouais, parce que Piccolo, je l'ai pas mis dans mon top 3, mais c'est meilleur perso.
Piccolo, Gassure.
Gassure, meilleur Namek, parce que c'est un Namek. Ça, c'est meilleure race, quand même. C'est bon. Non, Gohan, je suis entièrement d'accord avec toi. Et mon top 1, j'espère que tu vas le partager. Mon top 1, c'est Frog de Chrono Trigger. C'est pas pour dire tout Chrono Trigger, mais Frog, déjà, je le trouve déjà bête de classe. Ouais. Alors, ça reste quand même une grenouille avec une épée. Toujours pareil, hein, je pense qu'il y avait des prémices de Trunks là-dedans. Mais.
Il s'appelle Graine dans la VF.
Ouais. Et je trouve que c'est hyper original. C'est-à-dire que Toriyama, on peut souvent trouver qu'il a en fait des patterns. Et même, tu vois, Gohan, je voulais rentrer dans l'argumentaire de c'est le meilleur perso. Tu vois, c'est le personnage de Tobal, c'est quelque part le personnage de Chrono Trigger. Gohan, c'est l'archétype plus presque que Goku.
C'est pour ça que je suis pas trop fan de Chrono, le perso de Chrono, quoi. Trop proche de Gohan.
Ouais, mais Tobal, pareil, hein, il a une petite mèche blonde, enfin blanc, c'est Orelsan de la baston. Mais c'est cet archétype là et dans Chrono il a réussi avec Robo, avec il y a plein de personnages différents,
c'est vrai,
et tous les personnages de Chrono, quand je les regarde, c'est instant, c'est que j'ai quasi envie de relancer le jeu par leur design et leurs caractéristiques. Puis, quoi.
Faire un perso d'une grenouille, tu te dis ça va être le c'est rigolo, alors que non justement, Graine, c'est le mec, c'est le guerrier noble,
c'est le plus valeureux,
charismatique, qui est trop classe, enfin moi c'est mon perso préféré aussi. Et il est trop stylé, le gars.
Et il est stylé, alors qu'il se déplace comme une grenouille.
Ouais, en sautant.
En sautant, enfin, ce qui pourrait être l'anti-charisme, enfin, anti-classe, quoi. Et ben, pourtant, il est vraiment mortel. Et voilà.
De toute façon. Que son travail sur Chrono Trigger,
il est ouf.
Dinguerie, et il s'est bien distingué de ce qu'il faisait.
Il a réussi à, on l'a pas dit, mais tout ce qui est méca design, il adore, lui. Et ben, robot, c'est caractéristique du méca design qu'il aime bien, très rond, très.
Avec les deux meufs qui ressemblent plus un peu à ce qu'il faisait déjà dans Dragon Ball.
T'as la Bulma, et elle pourrait correspondre à qui ? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les deux personnages féminins sont peut-être un peu moins originaux. Écoute, dans tous les cas, on vous conseille Chrono Trigger, hein, envers et contre tout. Et
on conseille tout ce qui touche à Toriyama, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein.
De près ou de loin, n'hésitez pas à nous balancer vos top 3. Et là, je pense qu'il va y avoir, il va y avoir de tout.
Hein. Moult, ouais.
Mais franchement, on n'a même pas parlé des méchants. Mais tu vois, Cell et Freezer, ça reste quand même très très stylé. Même Boo, j'aime bien.
Ouais.
L'arc de Boo, j'aime bien.
Bah, figure-toi que c'est celui que j'ai le plus envie de relire maintenant, alors que c'est celui que j'étais au moins d'attaché, je pense.
Bah, il fait vraiment Nawak et tout. Et puis. À l'époque où nous on a découvert Boo, donc tout ce qui était l'outrance des fusions, des transformations, on était surexcités. Aujourd'hui on râle, on fait ah non c'est bon, encore une nouvelle couleur de cheveux, alors qu'avant c'était ce qui nous plaisait plus. Boo, ça représente un petit peu ça. Donc c'est un petit peu cool. Allez, on va essayer de passer sur quelque chose de plus joyeux avec des jeux très gays aussi. Deux jeux en fait qui sont les deux premiers jeux d'un studio et deux jeux de plateforme qui sont un petit peu particuliers. On va parler de et Penis Big Breakaway, et c'est deux titres qui sont intéressants à plus d'un titre parce qu'ils reconsidèrent en fait l'acte du saut, sauter. Et la propriété première d'un jeu de plateforme, c'est le saut. Donc deux jeux qui se disent moi je vais en faire autre chose, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Dans ces deux jeux, vous allez le voir, le saut, en fait, il est un petit peu chelou. Le saut, c'est pas le moyen principal d'avancer ni même de se défendre, contrairement par exemple à son premier représentant qui est Mario. Il se défend et il avance avec le saut. Là, c'est un petit peu différent. Et donc voilà, faire le saut de façon un petit peu détournée, c'est quand même étrange et c'est assez original pour un jeu de plateforme. Vous allez voir, c'est des sauts qui sont petits, qui sont limités, et c'est des sauts qui semblent même accessoire. On se dit, mais pourquoi ils sautent, à quoi ça leur sert?
Tu nous intrigues.
Mais oui. Alors, l'autre particularité de ces deux jeux, c'est qu'on va parler d'un jeu en 3D et d'un jeu en 2D. Mais le jeu en 3D, il va chercher son inspiration dans le jeu 2D et inversement. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Et c'est une autre particularité qui les rassemble, c'est que c'est deux jeux de grande qualité avec un parallèle et une opposition intéressante pour les deux. Donc ils se contredisent et ils se rejoignent. C'est un peu chelou. Donc j'ai pas décidé de parler des deux en même temps. Hein. Je l'ai déjà fait, mais on va essayer de simplifier les choses un peu. Pourquoi toujours faire compliqué? On va commencer avec Promenade. Donc Promenade, c'est un jeu du studio Holycap, un studio français, un studio nantais. Donc, salut.
Petit, petit vivier. Non,
salut les amis, ouais, carrément. Nouveau vivier de développeurs de grande qualité. C'est un jeu qui a été développé par 4-5 personnes. Donc, ils ont commencé à 4. Ils sont passés à 5. Ils sont repassés à 4 à la fin. Donc, je vais pas vous refaire le développement. Mais c'est vraiment un petit développement. Il y a eu tout un support de l'éditeur et il y a eu un support aussi de tout ce qui est l'animation 2D. J'ai vu dans les crédits qu'il y avait plusieurs noms. Mais, la core team, c'est quand même 4-5 personnes. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. C'est un jeu qui est édité par Red Art. Donc, un éditeur français. Okay. Encore une fois, donc c'est cool. Donc c'est un éditeur qui est spécialisé dans les portages et dans les éditions physiques. Ça se fait quand même pas mal. Donc moi, le premier jeu auquel j'ai pensé quand j'ai joué à Promenade, c'est Yoshi Island. Donc Yoshi Island, le jeu bien connu de Nintendo, dans lequel on ne gère pas Mario, mais Baby Mario, ado de Yoshi. Mmh. Et donc, c'est un jeu qui a aussi une approche assez différente de la plateforme, avec une approche du saut qui est un petit peu différente. Donc dans Yoshi Island, dans les différentes itérations du titre, c'est un jeu dans lequel il y a pas mal de mini-jeux, dans lesquels en fait on va surtout gérer des œufs. Donc on a Yoshi, donc il faut absorber les œufs, les rejeter. On a même une sorte de cible, je sais pas si tu te souviens quand t'as appuyé
pour les lancer. Ouais.
C'est assez compliqué de tomber dans Yoshi Island en fait. Quand tu perds bébé Mario en fait est dans une bulle et tu as le temps de le récupérer. Donc l'échec du saut, la plateforme en elle-même, c'est pas tant un enjeu de Yoshi Island.
C'était un jeu voulu plus facile hein, et pour un public peut-être un peu plus jeune. Et comme tu dis, il était moins sur les réflexes, moins sur le ski en fait. C'était plus le côté balade, le côté profiter. Enfin, c'est vrai qu'en plus c'était
le côté c'était magnifique. Promenade peut-être.
Aïe, aïe, aïe.
En fait, Promenade et Yoshi Island, c'est deux jeux qui sont vraiment très très malin en fait. C'est qu'ils ont des gameplays variés, mais surtout des gameplays qui sont très très bien pensés. Moi, on parlait tout à l'heure de ce qui nous a marqué dans Toriyama, comme des marqueurs. Moi, je sais que Yoshi Island, c'est la première fois où, en gros, je me suis dit, ah, c'est ça le gameplay, parce que chaque niveau a un gameplay différent. Moi, c'était sur DS, donc ça commence à dater. Et moi, j'avais pas très bien compris ce principe, c'est quoi le gameplay. C'est aujourd'hui encore pas si évident à résumer, tu vois, mais se dire, ah ouais, il y a un niveau, une features, ce gameplay, c'est ça, c'est avec Yoshi Island que je l'ai percuté. Et Promenade, c'est exactement pareil, c'est que t'as vraiment à chaque fois un niveau, une mécanique voire deux mécaniques, et t'as tout le temps des choses qui sont tellement malines, vraiment. C'est un truc qui m'a choqué dans Promenade. Un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, dans Promenade, à un moment, t'as un niveau où t'es dans un petit vaisseau spatial. Et en fait, tu vas te balader. Et en fait, les niveaux sont assez concentriques. Donc, t'amènes toujours à aller au centre et t'as des activités à faire un petit peu partout. Et donc là, t'es dans ton petit vaisseau spatial. Et en fait, tu vas laisser derrière toi des pointillés. Mmh. Et au début, je me suis dit, ça sert à quoi les pointillés? Ah, finalement, est-ce qu'il va y avoir des énigmes avec les pointillés? Il va falloir que je fasse une forme et tout. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait plusieurs usages et que ces pointillés, en fait, m'indiquent les endroits où je suis déjà allé. Et quand tu vas naviguer comme ça en 2D avec un petit vaisseau, t'as pas grand chose qui te dit. En plus, c'est un simulé espace, donc c'est noir et tout, et tu vas pas savoir où tu allais. Et c'est ça, t'as la mini idée qui va en fait servir à plusieurs choses et aussi à te guider. C'est ce genre d'idée vraiment
à
incroyable.
À la Nintendo, comme on dit.
Exactement, à la Nintendo. Mais pour le coup, je pense que c'est un beau compliment et c'est totalement vrai. Donc Promenade, c'est un jeu qui est en 2D, mais qui emprunte aussi beaucoup à la 3D dans le sens, platformer 3D. On va le voir, c'est un collectathon. On doit récupérer plusieurs petits objets. Mais vous savez, ces plateformers 3D, c'est des jeux qui sont extrêmement variés, dans lesquels on va deviner quoi faire. On a plein d'objets à récupérer et on sait pas forcément comment il faut les récupérer. Très Banjo-Kazooie, très Mario 64.
Ouais, le côté un peu exploration-aventure, quoi.
Exactement. Plus très Mario Odyssey, plus récemment. Et c'est un jeu Promenade dans lequel, et comme dans ces différents titres, qui va nous demander beaucoup d'observation. En fait, tout est indiqué, tu as beaucoup d'indications dans les décors, mais le jeu, il est quasi muet. Il va jamais rien te dire. C'est le jeu qui va te dire, qui va t'indiquer, en fait, par son design, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le truc le plus chaud à faire. Et encore une fois, c'est le premier jeu de 4 à 5 personnes. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Persona aussi. Je vous avais parlé dans une précédente émission du jeu Death Door. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Où il y avait pas de tutoriel. C'est-à-dire que il y avait pas de tutoriel écrit avec des cases où on va te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est le design du jeu qui t'indiquait comment il fallait faire. Là, on est dans cette mesure-là. Donc,
C'est la pure nature du jeu vidéo, quoi. Enfin, l'essence du jeu vidéo, quoi.
C'est vraiment assez remarquable, je trouve. Donc, dans Promenade, le but du jeu, c'est de trouver des engrenages. En fait, faut trouver des engrenages pour faire monter un ascenseur. Donc, t'as un engrenage qui est splitté en trois, et en fait, chaque niveau de l'ascenseur va te demander de plus en plus d'engrenages. Il faut les collecter. Bah, dans Banjo, c'est des notes de musique. Dans Mario, c'est des étoiles. C'est le principe même. Mais dans Promenade, c'est une structure qui est assez libre et dans laquelle il va y avoir beaucoup d'exploration. Et ça, c'est ce qui se détourne beaucoup des plateformeurs 2D, qui sont souvent très linéaires. Là, on est plus dans l'approche plateformeur collectathon 3D, genre Jack and Daxter, Donkey Kong 64. J'essaie de citer des exemples différents pour tous les balancer, parce que j'adore ce genre-là, mais t'as compris l'idée, tu vois.
Ouais, du coup, c'est pas des stages forcément isolés, séparés, t'as quand même une espèce de cohérence.
Alors, t'as des stages, c'est plusieurs stages isolés, mais tu peux naviguer de l'un à l'autre un petit peu quand tu veux. Tu peux revenir à ce hub central qui est l'ascenseur. Et en fait, dans ces niveaux-là, en fait, c'est des niveaux qui sont assez ramassés, mais qui sont très denses, tu vois. T'as pas, par exemple, dans un jeu en 2D, une certaine forme d'horizontalité, c'est horizontal. Là, en fait, dans les jeux 2D, c'est que ça. Là, il va falloir que tu ailles voir dans ce niveau, mais partout. T'as vertical, à gauche, à droite. C'est petit, mais je parlais tout à l'heure de concentrique. C'est que c'est un terme qu'ils utilisent eux aussi pour te dire, il faut que tu ailles jusqu'au centre parce que tu dois un petit peu ratisser tout le niveau et en fait voir où sont ces engrenages cachés et qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir en collecter un. C'est pas uniquement... tu peux en collecter de différentes façons.
Ouais, c'est pas aller du point A au point B. C'était le Yoshi sur 64 qui était comme ça, en fait, où t'avais... L'objectif, c'était pas forcément de finir le niveau, mais récolter 30 fruits dans le niveau, en fait, je crois. Et du coup, ça décorait un peu le côté juste ligne d'arrivée, en fait, pour te dire... c'est le terrain de jeu global.
Exactement. Explorer, quoi. Là, un niveau, on va dire, c'est plus un univers où c'est quoi le mot à la mode je l'ai bouffé. Tant pis. Tu sais quand t'as genre le niveau de la mer, le niveau du feu.
Le biome.
En gros, t'as des sortes de biomes et chaque biome, tu vas avoir tant d'engrenages à choper et dans chaque niveau, en fait, tu vas avoir un carnet. Et le carnet, la lecture du carnet, elle est super importante, super ludique pour découvrir comment avoir des engrenages, parce que c'est des énigmes. Mmh. Et tu vas savoir combien dans chaque niveau combien d'engrenages, avec un intitulé un peu abscon, un peu nébuleux, mais qui va pouvoir un peu t'indiquer quoi faire. Et ça peut être tellement varié, et ça c'est ouf. Par exemple, t'as un niveau où t'as un bigorneau, une sorte d'escargot là, des mers, qui mange des spaghettis, et t'en as un autre un peu plus loin. Mais le second, en fait, il se fait harceler par des boulets de canon. Et en fait, le truc, c'est qu'il va falloir que tu chopes les boulets de canon pour que le second bigorneau arrive jusqu'au premier et que tous les deux mangent leur spaghetti ensemble façon Bernard et Bianca. Et là, ça va débloquer un engrenage. Mais rien ne te le dit, en fait. Mmh. Il faut que tu regardes ou l'intitulé ou dès que tu chopes, en fait, au fur et à mesure de ton aventure, quelque chose qui est un peu louche, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? T'as souvent un truc à faire. Et donc, c'est beaucoup... d'observation. T'as plein de diversité. Tu vois, t'as de la course, des énigmes, t'as des trucs en vaisseau, t'as parfois des vrais donjons. C'est hyper varié.
T'es stimulé tout le temps quand tu joues, quoi.
T'es stimulé tout le temps. Et c'est pour ça que je fais le parallèle. C'est un vrai platformer 3D, mais en 2D.
Parfaitement.
Donc, autre héritage des plateformeurs 3D, encore pour ce parallèle, c'est qu'on a un duo de personnages dans Promenade, avec un sidekick sur le dos du premier, hein, façon Jack and Daxter, Banjo-Kazooie, Ratchet and Clank. Là, en fait, on a un enfant qui a avec lui une sorte de doudou poulpe, qui, en fait, c'est un boomerang qui va te servir à agripper les choses, à les ramener vers toi. Et en fait, tu vas aussi pouvoir attaquer avec le petit poulpi, là. Mais ce qui est marrant, c'est que les ennemis sont pas spécialement menaçants. Les ennemis, c'est un peu des outils le plus souvent, les ennemis vont te servir à faire un double saut. Mmh. Tu les prends et en fait, tu les jettes vers le bas. Ça va te servir à faire un double saut et ça va te servir à faire différentes mécaniques. Ça peut rappeler Clonoa pour ce côté double saut, mais pas que. Les ennemis, ça va aussi te servir pour les énigmes. Il va souvent falloir les prendre, les mettre à des endroits précis. Il va falloir ramener des choses. Mmh. Et tout ça, c'est avec ce petit poulpe et souvent avec les ennemis qu'il va falloir un petit peu agrémenter toutes ces énigmes. Dans des ennemis, c'est pas vraiment des adversaires. Et on va voir que ça, c'est un point commun avec le prochain jeu qu'on va aborder, c'est que les éléments qui nous entourent, sont pas spécialement des menaces. Ça aussi, je trouve que c'est assez original. Donc, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui a assez varié, donc qui est long, 10 niveaux, avec une mécanique à chaque fois, Nintendo style, hein, comme on dit. Et donc, tu peux passer de niveau en niveau. Et t'as un côté un petit peu Inception, dans le sens où c'est un univers promenade qui est très sur le rêve. Donc, t'as un enfant et, par exemple, les niveaux, c'est des montagnes d'oreillers. Mmh. Et donc, tu passes de niveau en niveau en allant dans cette montagne d'oreillers. Je trouve que ça, le côté rêve monte dans un monde, ça fait très Inception aussi. Mais ça, je sais pas si ça va te plaire, mais t'as pas de téléportation entre les mondes. Ouais. Et ça, ça peut sembler être un souci, mais je crois que c'est quand même très volontaire pour justement te favoriser, inciter l'exploration et te dire, est-ce que t'as vraiment tout eu de ce biome-là? Et que quand tu passes, par exemple, des fois t'as des mondes dans des mondes. T'as l'ascenseur qui est ton hub. Pour arriver à un monde, il va falloir que tu passes par un autre. Mmh. Donc, si tu fais un tout droit, je vous l'ai dit, les niveaux sont ramassés, tu vas pouvoir tracer. Mais à chaque fois, chaque traversée de niveau, c'est une occasion de débloquer un peu plus d'engrenages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas découvrir des mécaniques dans des niveaux qui sont plus avancés et qui vont te servir dans les premiers niveaux, mais tu le savais pas à l'époque. Donc, en gros, on est quand même face à une sorte de monde ouvert avec un réseau connecté de niveaux, mais sans pour autant être un Metroidvania. C'est pas le cas. Mais on est sur un jeu qui est vaste, avec des lieux qui sont extrêmement riche en activité, mais t'as d'autres niveaux qui sont plus tranquilles, d'autres qui sont plus récents. Et c'est ça qui est chouette, c'est que t'as des vraies ruptures de rythme, alors que t'es dans un monde qui est assez libre dans son exploration. Et ça, je trouve que c'est quand même assez original. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui est travaillé dans tout ce qui nous fait vivre. Dans tous les moindres points de l'exploration que tu fais, c'est assez vraiment très précis. Et c'est pour ça que je le compare à Cocoon. Alors, absolument rien à voir avec le gameplay. Mais Cocoon est quand même dans un monde dans des mondes. Ouais. Donc, et le fait que Cocoon, c'était une illusion de liberté. T'avais l'impression que tu pouvais faire plein de trucs. Rappelez-vous, Cocoon, c'est une précédente chronique. T'avais l'impression que tu pouvais faire plein de trucs, que t'étais complètement perdu, mais t'étais assez, de façon assez linéaire. Là, en fait, t'as une grande liberté, tu feras absolument tout ce que tu veux, mais c'est pas une illusion. Et en fait, ils ont réussi, et là, je sais pas comment ils ont fait, de gérer ce rythme, alors que t'es dans un monde libre. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Dernier parallèle avec Cocoon, c'est que dans Promenade, t'as des boss qui sont pas unis, qui sont pas, tu peux pas les tuer forcément en sautant dessus. Ouais. Donc c'est un peu des twists, tu vois. Et ça, c'est assez cool. Au final, on est sur un jeu qui fait quand même une dizaine d'heures, donc qui est plus proche d'un collectathon 3D que d'un jeu 2D, classique, sur une DA qui est assez c'est très joli, mais qui est assez enfantine. Je sais pas si vous l'avez vu, Ken vous mettra pour ceux qui nous regardent en vidéo des trailers. On est sur quelque chose qui est très pastel, très rond, très enfantin, très doudou en fait, hein, on
ouais,
est...
Petit Prince un peu, non ça
très Petit Prince, t'as ouais. raison. Alors là, on est dans le registre du rêve aussi à 2000%. En revanche, la DA, je sais pas si elle est, je dirais pas qu'elle est en décalage avec ce qu'est le jeu, mais il est pas si simple que ça. C'est pas un jeu d'enfant ouais. de 4-5 ans. C'est un jeu pour tout le monde, dans le sens où, par exemple, t'as beaucoup d'engrenages, donc la moitié des engrenages disponibles te suffisent à finir le jeu. Mais si tu veux le 100%, c'est excellent, parce que tu vas découvrir... parce que c'est un vrai collectathon, parce que t'as toutes ces énigmes, donc tu vas vraiment découvrir plein de trucs, mais la moitié des rouages te suffit, donc il est pour tout public, mais c'est pas... Enfin, quand tu le regardes, tu peux te dire, c'est un jeu Adopi, les trucs... Adopi, c'est pas ça.
Okapi Okapi ou Apiti?
Non, il y a les deux, je crois. Bah, vrai, c'est un jeu pour les enfants, c'est un jeu pour les adultes.
C'est un jeu Adopi,
tu joues pas longtemps, en fait. Il y a un mec qui vient chez toi. Voilà. Après, j'avais une question, c'est est-ce que tu as une DA pour un collectathon, pour un platformer de ce genre? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être enfantin ou se référer à la mignonnerie à l'enfance? Un jeu du genre avec un design énervé? Mais j'en connais pas, en fait. J'ai sûrement cherché.
Oui, parce que après on part dans les inside et tout, et là c'est non, tout c'est... la même chose, quoi.
Ouais, c'est pas un collectathon. Même, tu vois, en Metroidvania, tu pourrais dire, ouais, il y a Blasphemous et tout, mais on n'est pas dans le Metroidvania. Je parle vraiment du collectathon.
Oui, dans
le jeu de
plateforme, ça reste dans des univers colorés, plutôt bonne ambiance.
Donc quoi. C'est assez, bon, je finirai quand même en vous disant que c'est un jeu qui est incroyable et incroyablement bien fait, qui est malin. Ça ressemble pas à un premier jeu de 4 ou 5 personnes. Je trouve ça ouf. C'est brillant, et c'est brillant jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à son générique de fin qu'il va falloir aller chercher. C'est-à-dire que t'as tout le temps, il va falloir l'atteindre. T'as tout le temps des twists, t'es tout le temps actif, t'es toujours dans l'interaction. Et ça, c'est mortel. Et c'est un jeu qui convoque les plus grands titres, les jeux Nintendo, bien évidemment, mais aussi Céleste. On va dire que c'est pas rien comme référence. C'est pas une référence directe, c'est moi j'y ai vu du Céleste parce que je trouve que déjà c'est l'histoire d'une ascension. C'est qu'on prend, là, il va falloir des engrenages pour monter un ascenseur. Céleste, c'est une montagne. Et Promenade comme Céleste, c'est un jeu qui arrive à être touchant malgré son statut de platformer enfantin et malgré des gameplays qui peuvent paraître un petit peu sommaires. C'est pas le cas. Et là, ils arrivent à aller plus loin. Ils arrivent même à toucher dans l'émotionnel. Donc franchement, c'est quand même un gros coup de cœur.
Ça donne envie. On est sur les lignées des bons jeux français.
Ça fait vraiment plaisir. C'est un jeu qui a 25€, qui est dispo partout, PC et console, et qui est même dispo en physique. Donc c'est une des propriétés de leur éditeur. Et moi, c'est un jeu que j'ai fait sur Switch, et il y a une démo. Donc si ça vous a parlé, ce que j'ai raconté, et que ça vous intéresse, ben n'hésitez pas à vous y essayer, au moins pour le tester, quoi. La démo, ça vaut le coup. Et j'ai remarqué quand même que j'ai beaucoup blablaté, mais Pronade, ça valait le coup. On va parler d'un autre jeu de plateforme, de Penny's Big Breakaway. Donc c'est un autre premier jeu, bon, on va voir, pas d'un premier game designer. Donc c'est le studio Evening Star, studio de Christian Whitehead, donc qui est pour qui Sonic est important. Il s'est occupé de plusieurs portages et de Sonic Mania en l'occurrence. Et c'est un jeu qui est édité par Private Division, donc une branche de Take-Two, plus ciblé indé, on va dire.
Ouais, c'est le EA Partner, c'est le machin. Ils ont tous un label pour quelques jeux indés pour donner bonne conscience.
Ouais. Et c'est aussi un jeu, Penny's Big Breakaway, qui a un rapport au saut très très étrange. On va pas dire qu'il est accessoire et peu précis, mais on va dire qu'il va pas spécialement nous faire avancer. Dans Promenade, j'ai même pas un peu insisté, mais c'est vrai que le saut, il est tout petit. C'est plus quand on va aller agripper des choses, se servir comme Clonoa là, de ses doubles sauts. C'est dans Promenade, c'est les énigmes, le truc. Là, c'est différent. Là, le saut, il est aussi pas très utile, et on va voir en quoi. On est encore sur un duo de personnages, hein, avec Penny et un yo-yo. Alors vous dire, super, un yo-yo, c'est pas un personnage, mais le yo-yo, il est très important. C'est une arme, mais c'est aussi un véhicule. Et bon, je dis que c'est une arme, mais on n'attaque pas vraiment les ennemis, parce que les ennemis, vous allez voir, ils nous veulent pas spécialement du mal. C'est des ennemis, c'est des pingouins. Tout au long du jeu, c'est les pingouins. Et eux, c'est une menace parce que ils veulent pas nous faire perdre de la vie, mais en fait ils veulent nous choper parce qu'ils veulent pas nous tuer, mais ils veulent nous ralentir. Ils sont juste là pour nous faire perdre du temps. Ils sont pas là pour nous faire perdre de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui va nous indiquer un petit peu la direction du jeu. C'est finalement, est-ce que c'est plus un jeu de plateforme qu'un jeu de fuite? C'est un jeu où il faut aller vite, où il va falloir atteindre rapidement, son point A pour aller jusqu'au point B. Et le yo-yo, en fait, c'est un véhicule. Il va nous permettre de rouler super vite, de nous déplacer et de nous dégager des pingouins quand on va s'en servir en mode arme. C'est que quand on se fait assaillir par les pingouins, on peut aller jusqu'à 5, tu tournes autour de toi et tu fais dégager les pingouins, mais tu vas pas spécialement, quand tu croises un pingouin, tu vas pas le regarder le latter, quoi. Il t'a rien fait. Tu t'en fous, toi t'es là pour tracer, quoi. Alors entre Penny's Big Breakaway, donc le personnage de Penny's, on a, en tout cas moi très personnellement, j'ai très eu rapidement envie de faire le comparo avec Sonic, ça m'a semblé presque naturel parce que Christian Whitehead, donc Monsieur Sonic Mania, j'ai essayé de lutter contre, me dire mais arrête de les comparer, ça sert à rien, mais franchement le parallèle, je trouve qu'il est finalement assez évident à faire. Alors déjà on peut comparer les deux personnages et on peut comparer leurs capacités. Donc t'as des personnages qui sont lents au lancement, c'est-à-dire que vraiment le temps qu'ils se mettent en branle, franchement c'est assez long. Des personnages où ils ont une charge, justement ils vont comme un peu le spin dash de Sonic, tu vas t'arrêter et tu vas faire et en fait tu vas charger pour partir un peu comme une balle d'un coup. Ces deux jeux, Sonic et Penny's, qui vont en fait servir des slides, des rampes, il va falloir slider, tout ça c'est quelque chose qui est assez propre de jeu. Et ces deux personnages principaux qui ont une inertie, on va dire, assez particulière, qui c'est propre à eux, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, que ce soit l'un ou l'autre.
Je confirme.
Mais pour, en fait, c'est plus la philosophie des Sonic qui est reprise dans Penny's. En fait, on va retrouver la dichotomie qui est propre au gameplay des Sonic, hein, c'est aller vite tout en récoltant des objets. Donc ça, c'est des gens qui ont, ça leur fait bizarre, et ça fait bizarre à tout le monde parce que c'est assez antinomique.
Je confirme.
Tu confirmes encore? Et la construction des niveaux, ça va aussi te faire penser à Sonic, c'est que, en fait, évoluer dans les niveaux de Penny's, c'est un peu comme dans Sonic, dans le sens où, ça te semble grand. T'as l'impression qu'il y a des arborescences partout, mais au final, en fait, c'est une ligne droite, avec le même début, la même fin, mais avec des variations au milieu. Et finalement, le but, c'est une trajectoire optimale. Il faut la trouver. Elle est où? Et c'est pour aller le plus vite à la fin. Alors, je l'ai dit, l'inertie du perso de Penny, elle est quand même assez étrange. C'est aussi le cas de Sonic. Mais le but recherché, et là où on les retrouve, c'est que le but de chacun des persos, c'est gagner en vitesse. Les deux, leur but entre intrinsèque, c'est aller vite. Et c'est la vitesse, hein, qui va nous faire gagner en flow, qui va nous faire gagner en plaisir de jeu. Donc, c'est vrai que si tu prends Penny's Big Breakaway pour un jeu, un collectathon, encore une fois, où tu vas collecter des trucs, flâner, regarder, ce qui est un peu le cas, il y a des choses à collecter. Mais c'est pas là, en fait, où tu vas prendre du plaisir. Et finalement, c'est en allant vite que tu gagnes du flow, que tu gagnes du plaisir. Donc, c'est presque qu'il faut, faut réussir un petit peu à avoir une lecture du jeu pour essayer de pas lutter contre lui, tu vois. Mais il y a une différence quand même entre Sonic et Big Breakaway. Je vais arrêter de dire le nom complet. C'est le scoring. En fait, il faut faire des points et en fait, il faut pas toucher dans Penis. Non, Penis, j'arrête de le dire. Il ne faut pas toucher le sol. Parce que si tu touches le sol, tu vas perdre ton combo. Et en fait, perdre ton combo veut dire perdre en vitesse et veut dire perdre ton plaisir de jeu.
C'est donc, Tony Hawk.
C'est un... Oh non, Monique pas m'a conclu.
Je retire
le mec. Le mec est trop fort. Le mec absolument.
Tu donnes les bons indices.
Bah, écoute,
tu me fais croire que c'est moi qui ai l'idée alors que tout vient de toi.
Mais bravo. Mais écoute, j'ai encore deux trois trucs à te dire, mais on va y arriver. Petite précision sur comment est construit le jeu, c'est une caméra fixe. Ah. Alors, c'est un abus de langage. Alors déjà moi, à caméra fixe, quel que soit le genre de jeu, tu me mets un survival horror et tout, tu me mets une caméra fixe. Moi déjà, je suis engagé.
Putain, moi c'est le contraire maintenant.
Ouais, je sais.
Quand j'ai compris que le stick droit servait pas la caméra,
le stick droit ne sert pas la caméra, il sert à autre chose. On va en parler rapidement. Mais je dis caméra fixe, mais clairement c'est un abus de langage parce que fixe en opposition à libre, parce que ça soit Sonic ou même Penis Big Breakaway, il y a des travelling, donc c'est pas tant une caméra fixe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, comme un jeu 2D.
On contrôle pas trop la caméra, on va dire.
Tu ne la contrôles pas. Bon, avoir une caméra fixe, je trouve que c'est une solution qui est intéressante pour maîtriser la caméra dans un jeu qui est en 3D, parce que la caméra c'est souvent un problème, hein, donc là mettre une caméra fixe ça peut être une solution pour la gérer, mais une caméra fixe c'est un souci pour l'appréciation des distances, surtout quand l'angle est isométrique. Alors l'angle isométrique ça veut rien dire, hein, je le sais, mais vous avez compris tout de suite ce que je voulais dire, 3D isométrique, et dans le jeu Penis, il est parfois un semblant de 3D isométrique, quoi. Tu vas avoir une sensation ou tu vas avoir une appréciation des sauts qui est pas forcément optimale, où il va falloir en tout cas la dompter. Il va falloir un petit peu capter. Bon, je trouve que c'est quand même intéressant en solution. On est sur un jeu en 3D qui va chercher finalement un avantage dans le platformer 2D, donc dans la caméra. Je disais tout à l'heure que les jeux 2D, 3D allaient chercher dans les clans opposés leurs avantages. Moi, je me souviens de Mario 64 que j'ai essayé de lancer assez récemment. Les caméras fixes en 3D, en tout cas semi-libre ou galérer avec un petit... C'est pas toujours évident, même le grand Mario s'est cassé un petit peu les dents quand même.
Bah non, enfin, il a quand même révolutionné le truc, c'est juste qu'il a vieilli aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me posais la question des Mario 3D World qui sont eux en isométrique, mais il me semble qu'on peut bouger la caméra.
Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que a posteriori, Mario 64, avec sa gestion moindre, on va dire, c'est pas si évident que ça, c'est un peu compliqué parce que c'est des sortes de d'angles, en fait, tu changes d'angle. Ouais. Donc on n'est pas tant sur une caméra libre non plus. Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que c'est pas simple, tu vois, la 3D, donc choisir
ça a été un challenge.
Choisir une caméra fixe ou semi-fixe pour essayer de résoudre ce souci-là, je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça plutôt intéressant. On va continuer de parler de Nintendo deux secondes. C'est le mapping des touches dans Penis Big Breakaway. Je n'arrive pas. Quand je dis Penis, je suis obligé de dire Breakaway. Le mapping des touches, il est à la Nintendo. Alors ça veut dire quoi? Ça me rend fou. Je sais pas si vous, ça vous, c'est votre cas, mais il y a plusieurs façons de faire la même chose. Mais ça me rend dingue. Et ça me rend fou. C'est que, par exemple, tu as parlé tout à l'heure d'un Penis Big Breakaway, tu peux gérer le yo-yo. Tu peux gérer le yo-yo avec le stick droit. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, t'as une gestion quasi à 360 et instantanée du yo-yo. Mmh. Mais c'est la galère finalement.
Ah oui, moi je m'en servais jamais. Là.
Finalement, moi je me suis beaucoup plus servi des touches. Mais c'est, il y a plein de touches qui servent la même chose. Et en fait, comme, il y a une, quand on s'amène un petit peu les pinceaux dans le jeu, dans Penis, il faut au moins 2-3 niveaux sur 11 niveaux, hein. En fait, le fait que tu puisses faire plein de trucs et que des fois t'es décontenancé, et comme j'ai plusieurs possibilités pour faire la même chose, moi, ça a accentué. En plus, j'étais vraiment,
Ouais, faut juste que t'en choisisses un, celui où, avec lequel t'es plus à l'aise.
Ouais, mais comme je suis en panique, tu vois, imagine-toi comme dans Dark Souls. Imagine, t'es dans Dark Souls, t'as peur, et en fait, il y a plusieurs façons de faire une roulade. Du coup,
j'appuierai sur les deux en même temps.
Mais tu vois, exactement, c'est ça. Et moi, ça m'a un petit peu décontenancé, et cette gestion du yo-yo, elle est finalement dans le jeu assez poussée. T'as une vraie gestion de l'espace et des possibilités. Donc, tu vas jeter ton yo-yo, et tu vas te ramener à ton yo-yo, ce qui va te faire gagner, en fait, de l'espace. Tu vas pouvoir le doubler, double saut, machin. Et en fait, t'as plein, en fait, de twists. Et ça, il va falloir plusieurs niveaux. Et c'est un jeu qui se révèle sur le temps long. Alors moi, je l'ai fini, mais je vous le dis, je pense que j'ai rien vu. J'ai rien vu dans le sens où je maîtrise pas, et je pense que Penis Big Breakaway, c'est un jeu de tryharder, c'est un jeu de speedrunner, et moi, j'ai vraiment kiffé. Je suis pas au coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé le jeu, mais il m'a fallu vraiment du temps pour le maîtriser.
Ouais, alors c'est peut-être ce qui m'a manqué, parce que moi j'ai fait que le premier monde, donc les quatre premiers niveaux, hein. Et j'avoue, je suis pas fan du jeu en tant que tel, le contrôle, le design, machin. Je trouve l'idée du yo-yo très cool, et c'est vrai, comme tu dis, de décorréler le saut et le yo-yo pour faire son double saut, je trouve ça plutôt une bonne idée, quoi. Ouais. Après, moi je trouvais ça trop imprécis et tout, mais je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, c'est pas pour moi.
Il faut le dompter, le jeu, voilà, il faut le dompter.
Voilà, et j'avais pas l'envie de pousser plus le truc pour m'y faire, quoi.
Alors, Penny's Big Breakaway, c'est un jeu de Christian Whitehead, qui est un fan de Sonic de la première heure. Mais je me demande s'il est pas aussi fan de la Sonic Team un petit peu à l'ancienne dans son ensemble, et dont...
C'est Ken Bruno.
Oui, mais notamment, c'est Ken Bruno. Il a pas encore fait, mais je mets 10 balles sur le fait qu'il va aimer. Mais donc, Sonic Team à l'ancienne, je parle du binôme, hein, Yuji Naka, mais aussi Oshima, parce que Penny's Big Breakaway, il m'a fait penser... pas mal à Balan, en fait. Alors Balan, que moi j'ai critiqué, hein, assez violemment, mais il y avait des points positifs, et là dans ce jeu là il y a un petit peu de Balan, dans le sens où il est très festif, il est très spectacle, tout ce monde de la représentation. D'ailleurs, dans le jeu Penny's, à la fin de chaque niveau, t'as un petit clin d'œil, je trouve, à Mario, parce qu'il faut atteindre un point le plus haut, mais t'as tout,
ça, c'est rigolo,
t'as un petit QTE à faire,
ouais,
pour faire un move de yo-yo
show, quoi, ouais.
Et pour faire un show, et Balan c'était complètement ça, c'était, t'as vraiment le milieu théâtral, la représentation, le déguisement, tout ça,
c'est vrai. Même donc, dans le design du perso, on voit, je trouve, il y a une touche.
Il y a un petit truc, moi, où je fais un petit parallèle. La DA, tu l'as dit, toi, ça t'a pas trop plu, tout cet univers. Moi, je trouve qu'il y a une esthétique GameCube, dans les couleurs pastel, dans la 3D, un peu Billy Hatcher, Sonic Team aussi.
Ouais, c'est un peu trop terne, je trouve, niveau couleurs pour être GameCube.
Terne?
Ouais.
Pastel.
T'as les mondes, donc, avec plusieurs niveaux. Et ouais. Tu dis, il y a 11 mondes, en fait, c'est ça?
Il y a 11 mondes, mais c'est surprenant parce que chaque monde n'a pas le même nombre d'actes. Ouais. Et les actes, c'est Sonic. Mais des fois, tu vas avoir 4 actes et un boss. Des fois, tu vas avoir un acte et un boss. Donc.
Il doit être un peu long, quand même, au final.
Il est un peu long, hein. Il fait, franchement, je pense que j'ai mis moins de 10 heures. Je dirais 7-8 heures en mode touriste, comme moi à Tokyo, quoi. Ouais. C'est vraiment, je pense que Ken ne va pas le jouer comme ça, du tout. J'espère qu'il nous en parlera. Dernier mot sur un détail, après on va conclure. Les musiques, c'est un binôme aussi de Whitehead, c'est T. Lopez, hein, donc les musiques sont trop bien. Petit inconvénient, je trouve, c'est que c'est des thèmes musicaux par acte. Donc, ouais.
Donc quand tu le bouffes pendant une heure et demie.
Quoi. Pendant une heure et demie.
Au début, t'es content, puis après.
C'est peut-être un peu beaucoup. Je vous conseille son écoute hors jeu. Et voilà, encore Sarah m'envoie un third song dans lequel je vous disais que je n'écoutais pas hors jeu, mais on travaille sur soi, hein, chacun. Nous sommes la somme de nos contradictions, hein, comme on dit. Donc tout ça pour dire que Whitehead, il connaît parfaitement Sonic, c'est en lui, il a émulé, hein, au premier sens du thème, hein, du terme, il a reproduit Sonic avec un souci du détail qui est même plus précis que Sega, hein, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher. Je pense que c'est difficile pour lui de cacher son amour et surtout de cacher l'influence que la mascotte a eue pour lui en tant que développeur maintenant. Mais Penny's, je trouve que c'est un jeu qui a le goût de Sonic, mais je trouve que c'est pas Sonic, c'est une nouvelle expérience dans la veine de Sonic, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout Sonic. Et la différence, elle est flagrante si on prend par exemple les 3C. Alors les 3C, hein, c'est caractère, caméra, contrôleur. Je pense je reviendrai sur une chronique entière là-dessus. Mais en gros, c'est pour décrire simplement dans un document de design qu'est-ce qu'un jeu. Si tu dis, ce jeu, tu désignes son personnage principal, quelle est sa caméra, comment on le contrôle, tu vas pouvoir avoir un aperçu très fidèle de ce qu'est le jeu. Et entre Sonic et Penny's Big Breakaway, t'as aucun des 3C qui correspond. Donc la caméra, on l'a vu, qui est différente, les contrôles qui sont différents, mais surtout le personnage. En fait, Sonic, c'est le meilleur. Il a besoin de rien. C'est une arme et un véhicule en lui-même. Lui tout seul, c'est une arme et un véhicule. Tu vois, il incarne l'ensemble de ses possibilités. Alors que Penny's, sans son yo-yo, elle est pas grand chose. Elle est rien, en fait. Et ça change tout. Elle a besoin de son yo-yo pour se défendre. Elle a besoin de son yo-yo pour se déplacer. Et quand je disais tout à l'heure que c'était un jeu de fuite, je dirais presque que c'est un jeu de course dans lequel on roule, on fait des combos, une sorte de Tony Hawk. Une sorte de Tony Hawk en ligne droite où il va y avoir des tricks, où il va y avoir du scoring, où il va y avoir des slides, du ride. Niveau feeling, il y a un petit peu de Tony Hawk et finalement tu l'as deviné, à la description de ce jeu. Tu as fait le premier acte. Est-ce que tu vas te laisser tenter par la suite ou
Je pense pas. J'avoue, j'ai pas trop le temps de lui accorder ce qu'il mériterait. Et puis, voilà. Enfin, il y a une expression que je pense, je suis le seul à comprendre que tu utilises quand tu dis un truc qui vibre.
Oui.
Pour moi, c'est le jeu qui vibre par excellence. Que j'ai l'impression qu'il va me tomber. Il y a un truc qui marche pas. Quoi, que ouais. Les contrôles sont pas réactifs. Que les niveaux sont un peu. Voilà. C'est pas très.
Mais cette expression, elle vient du design graphique. C'est quand vous regardez, par exemple. Une affiche ou qu'il y a une police ou qu'il y a quelque chose que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, on dit ça vibre et c'est ça que tu ressens dans Penny's Breakaway, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, mais cette vibration je pense que tu peux la dompter pour atteindre une forme de stabilité et il faut du temps et il faut de l'abnégation, il faut un petit peu le dompter comme qu'on dompte un yo-yo, c'est ouais. Pas simple de faire du yo-yo.
Après sans vouloir faire les techos machin, nous on y a joué sur Switch en version 30 fps avant le patch. Je pense que oui, ça doit être quand même plus confortable sur une version à 60 fps en termes
j'aimerais
de réactivité.
Ouais, contrôle. L'essayer. En tout cas, ouais, j'aimerais bien l'essayer en mode nouvelle console bien puissante, tout ça. J'ai hâte aussi d'avoir l'avis de Ken parce que je pense qu'il va bien le poncer comme il faut, avoir son sentiment par rapport à l'appréciation du personnage, tout ça. Comme tu l'as dit, nous on l'a fait sur Switch, il est dispo aussi partout, PC et console. Et en tout cas, voilà, il est en contradiction parallèle avec Promenade. Il y a des ponts, il y a des parallèles à faire. En tout cas, c'est deux titres, je trouve, qui sont très intéressants, qui sont aussi des anomalies dans le paysage vidéoludique actuel. Tu parlais de temps à accorder. Moi, là, je suis sur FF7 Rebirth et j'aimerais, dans un monde parallèle, tu vois, avoir plus de temps pour ce titre-là. Mais c'est compliqué en ce moment.
Je serais curieux de voir si les deux jeux vont se vendre sans vouloir porter la poisse à personne.
Ouais. Parce que pour le coup, Penny's Big Breakaway, il a quand même le soutien. Même, tu vois, c'est pas Take-Two, mais c'est une branche de Take-Two. Christian Whitehead a une petite réputation. Moi, c'était un jeu que j'attendais beaucoup, mais je sais pas s'il a fait plus parler que ça. Promenade, j'ai un peu l'impression, et j'aimerais en tout cas qu'il soit révélé en tant que coup de cœur. Et si nous, on peut lui donner tout l'amour possible, on le fera. Et en tout cas, essayez-le. Et à l'occasion, Nico, moi, j'aimerais bien aussi avoir ton avis. Après, c'est la folie des jeux vidéo en ce moment. Donc, compliqué de trouver du temps.
Ouais, non, mais Promenade, tu me l'as vendu. J'ai très envie d'essayer. Ouais.
Donc n'hésitez pas, pour cette chronique très plateforme, n'hésitez pas à nous dire si vous avez essayé ces deux jeux parmi tous les bangers qu'il y a en ce moment, triple A de folie. Ça fait du bien aussi des fois de redescendre, d'avoir des jeux avec un scope un petit peu plus petit.
Contre-programmation, hein, toujours.
C'est aussi l'heure de vous remercier. Et là, le scoring sur Apple Podcast est 200, vous l'avez fait péter, c'est bon.
Waouh, vous avez été exceptionnel. Là. Vous avez grave joué le jeu, ouais. C'est vraiment merci à tous.
Donc là, il faut faire péter le scoring maintenant Spotify. Alors c'est là où il y a le plus d'auditeurs, donc même plus qu'Apple, donc on vous salue. Mais la petite note 5 étoiles, je sais même pas si c'est des étoiles sur Spotify, j'en sais rien, j'avoue.
Ouais, il faudrait qu'on aille voir.
Mais s'il y a moyen de mettre des notes, mettez des notes, ça ferait plaisir. Et YouTube, petit challenge à venir YouTube, mais petit like, petit abonnement, c'est toujours pareil, ça nous fait plaisir et c'est comme ça que ça aide les formats audio et vidéo de CERD. Mais CERD, ce n'est pas uniquement des émissions, c'est aussi des bouquins qui ont traité de tout, de manga, de jeux vidéo et de sujets que tu as abordé aujourd'hui.
C'est vrai, donc vous pouvez voir derrière nous, on a traité de l'œuvre de Toriyama par différents prismes, hein, donc n'hésitez pas à vous laisser tenter si jamais l'envie vous prend.
Carrément, et c'est l'heure, et vous êtes resté jusqu'à maintenant, je le sais, en tout cas je l'espère, pour la question fatidique de qu'est-ce qu'il en est de Red Alert la semaine prochaine ? Déjà, est-ce qu'il y a un Red Alert ? J'espère que oui.
Mais
j'espère
quand même. Je pars au Japon. Hein.
Moi aussi.
Alors, je crois qu'on fait une petite émission en commun, on va dire. Un petit stop sur Final Fantasy VII Rebirth.
Voilà.
Ne vous inquiétez pas, ça sera évidemment sans spoil. On va chacun aborder un point, on va dire, du jeu qui nous paraît intéressant. Et tout ça, ça sera vraiment un petit préambule pour se chauffer pour l'émission Lesser Strike EX avec la team où on va spoiler comme des salles, on va parler de tout pendant des heures et des heures, ça va être trop cool. Et qui devrait arriver aussi début avril.
Ouais, voilà, quoi. Devrait arriver très prochainement.
Donc, on a mis du temps pour parler d'FF7, mais on va y arriver. Sachant qu'on l'a pas fini encore, aucun de nous ne l'a fini.
Non, parce qu'il demande du temps aussi. Il est
Et on a eu envie de lui donner plein de temps.
Et ouais, et on lui donnera plein de temps aussi en émission. On vous remercie encore très chaleureusement et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.